Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 32e soirée d'éthique publique, la 5e de cette année universitaire du Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous, le premier mardi de chaque mois. Et bienvenue aussi ce soir à ceux qui viennent pour la première fois. Vous êtes très nombreux à avoir affronté le froid pour cette soirée exceptionnelle organisée en partenariat avec l'hebdomadaire Pèlerin. Et je suis heureux, on en profite pour éteindre nos portables, et je suis heureux de saluer ce soir Antoine Dabundo, qui est rédacteur en chef du Pèlerin, qui animera cette soirée avec moi. Soirée qui fait suite à la sortie d'un numéro spécial du Pèlerin il y a 15 jours, avec un dossier qui ne vous a pas échappé sur les catholiques et la politique, numéro dont des exemplaires sont, je crois, à votre disposition ce soir. Alors, inutile, évidemment, de préciser combien cette publication et cette soirée s'inscrivent dans une actualité importante pour notre pays, avec la préparation des prochaines échéances électorales. Chacun à sa manière, l'hebdomadaire Pèlerin, qui essaye de mettre en lumière le sens des événements chaque semaine, et le département d'éthique publique qui, par ses diverses propositions, cours, séminaires, conférences, tente de proposer des éléments de compréhension et d'analyse, des critères et des pistes pour continuer la réflexion sur les questions touchant à notre vie sociale, politique, internationale. Chacun, donc, à sa manière, mais ensemble, il nous a paru intéressant de proposer cette soirée pour réfléchir tranquillement et en confiance aux enjeux politiques du moment et à la manière avec laquelle nous abordons, comme chrétiens, ces échéances. Le chrétien croit à la politique, à la noblesse du politique, notamment dans le service du bien commun, et l'on peut dire que l'Évangile travaille la conscience citoyenne des chrétiens et les tourne naturellement à ne pas ignorer ce qui touche la communauté humaine. En effet, si dans notre tradition spirituelle, la tradition judéo-chrétienne, Dieu appelle tout homme par son nom, nous le savons que ce n'est jamais en tant qu'individu isolé, mais c'est toujours comme membre d'un peuple et pour le bonheur de l'ensemble de ce peuple auquel il est renvoyé. Notre espérance chrétienne n'est donc pas seulement individuelle, elle est aussi collective. Citoyens à part entière, les chrétiens sont donc concernés par l'avenir de leur pays, par les prochaines échéances électorales et veulent prendre toute leur place dans le débat politique et contribuer à ce débat. Y a-t-il une manière chrétienne d'envisager la politique? Au-delà des différences de sensibilité et d'opinion, quels repères peuvent éclairer nos choix? Comment précisément les chrétiens peuvent-ils aider à la réflexion citoyenne? Autant de questions qui nous habitent souvent, les uns et les autres, durant ces semaines. Et nous voudrions ensemble ce soir, jusque vers 21h15, 21h30, essayer de contribuer à avancer dans cette réflexion. Pour nous aider dans ce travail de réflexion, plusieurs invités qui sont à cette table et que maintenant va nous présenter Antoine.
Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord évidemment remercier le Père Lot et François Boédec qui nous ont accueillis dans notre demande de partenariat, les facultés jésuites de Paris, le Centre Sèvres qui nous accueille ce soir, parce que François ne l'a pas dit, sans doute par modestie, mais dans le numéro spécial de Pèlerin qu'il a signalé tout à l'heure, il nous a accordé une belle et longue interview qui, je crois, en tout cas, c'était mon opinion d'intervieweur, a donné toute la profondeur au dossier que nous avons proposé à nos lecteurs et tous ceux qui ne connaissent pas Pèlerin, mais le découvriront tout à l'heure. On poursuit donc cette réflexion engagée dans ce numéro avec nos quatre invités ce soir. Je vais les citer dans l'ordre dans lequel ils prendront la parole tout à l'heure. Avec nous, Monique Beaujard.
Bonsoir.
Monique, vous êtes juriste, théologienne de formation, vous me direz si je me trompe, avocate de profession, et vous êtes en charge depuis maintenant 2 ans du service national famille et société qui dépend de la conférence des évêques de France. J'observe d'ailleurs, comme un clin d'œil à notre dernière rencontre, que vous êtes une des rares femmes à occuper un tel poste de direction. Et je n'en tire bien évidemment aucune conclusion définitive. Ce service d'église, Monique Beaujard, vous le connaissez bien pour avoir travaillé et conseillé la Conférence des évêques de France pendant de longues années. Vous avez été notamment, en 2006 et en 2007, chargé des relations avec le Parlement européen pour la Commission des épiscopats de la Communauté européenne. Aujourd'hui, votre mission ouvre un large champ de réflexion et d'action, puisque le service national que vous dirigez en charge les dossiers de la famille, de la politique, de l'économie. François m'a conseillé de ne pas les citer tous, mais je rajoute quand même de l'Europe et de la santé. Je clôt la liste, qui n'est pas exhaustive du coup. C'est dire si vos journées doivent être largement occupées. L'an passé, vous avez pris en charge le pilotage de l'année famille 2011, voulu par la Conférence des évêques. Cette année 2012 est l'occasion d'un autre grand rendez-vous national, celui de l'élection présidentielle. Et à ce titre, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour nous aider à réfléchir sur les enjeux de ce scrutin et nous rappeler les points d'attention sur lesquels l'Église nous invite à exercer notre conscience de chrétien et de citoyen. Avec nous également Sylvie Goulard. Bonsoir Sylvie. Pour vous présenter d'une phrase, parce que c'était difficile, j'ai essayé de résumer les choses en disant que votre action, vos prises de position depuis plusieurs années sont un démenti cinglant à tous ceux qui voudraient nous faire croire que l'Europe est une chose ennuyeuse, rébarbative, inefficace et finalement de peu d'avenir. Pour ceux qui vous connaissent moins, je précise que depuis juin 2009, vous êtes députée européenne, élue dans la circonscription Ouest sur la liste du MoDem, parti dont vous êtes membre du bureau politique. La crise économique, financière, monétaire qui secoue le monde et ébranle particulièrement le vieux continent, vous la suivez et la combattez au quotidien, puisque vous siégez au sein du Parlement européen à la Commission des affaires économiques et monétaires, et vous êtes également membre de la Commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires. C'est une commission créée en 2009 dont l'objectif est de chercher des solutions à l'établissement de marchés plus sains et plus stables. Je pourrais tenir encore longtemps faisant la liste de vos états de service. J'ajouterai seulement deux choses. Votre passion pour l'Europe, vous savez la partager avec le grand public en proposant régulièrement des livres qui savent traiter avec finesse et légèreté de sujets sérieux. Je citerai pour mémoire l'Europe pour les nuls, couronné du prix du livre européen 2009. Et pour ceux qui seront intéressés, je tiens une liste un peu plus complète à leur disposition tout à l'heure. Je terminerai enfin par une anecdote qui n'en est pas une. En préparant cette soirée, je suis allé voir sur votre site et je suis tombé sur cette déclaration étonnante. Sans fleurs, le monde serait insupportable. Des jardins andalous aux pelouses anglaises, émeraudes, des délicates terrasses des îles Borromée aux jardins aux cordeaux de Versailles, des champs de tulipes aux jasmins de Sicile, l'Europe est un Éden, goûtez-le. Alors merci, Madame Goulard, de nous rendre cette Europe que vous incarnez tellement bien, si concrète, si proche et si séduisante. Monsieur Pinte.
Oui, bonjour.
Bonsoir. Merci également de nous honorer de votre présence. Que dire de vous que notre aimable Assemblée ne sache déjà? Puisque j'évoquais tout à l'heure l'Europe avec Madame Goulard, je commencerai par remercier la Belgique, puisque vous êtes né à Ixelles le 19 mars 1939. Merci à la Belgique donc d'avoir donné à la France l'un de ses fils les plus brillants et les plus généreux. Je rappellerai ensuite que vous avez fait votre entrée à l'Assemblée nationale en 1973 comme député de Seine-et-Marne, avant d'être élu en 1978, député de la première circonscription des Yvelines, siège que vous occupez sans discontinuité jusqu'à aujourd'hui. Après avoir exercé également des fonctions de maire adjoint et de maire de 77 à 95, puis de 95 à 2008. J'ajouterai surtout que, catholique fervent, vous avez toujours essayé de mettre en accord votre action et vos convictions, ce qui vous vaut parfois des incompréhensions, y compris dans votre propre camp, mais aussi des marques fortes de respect parmi vos adversaires en politique. Immigrés, logement, handicap, pauvreté, prison, aucun des combats pour la justice et la dignité de l'homme ne vous est étranger. Tout récemment encore, vous avez pris une position tranchée dans le débat politique en publiant avec le père Jacques Turc un petit livre qui fait beaucoup parler de lui extrême droite, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire? Vous reviendrez sans doute sur cette question. Enfin, je salue François Soulages et le remercie lui aussi d'avoir accepté notre invitation. François Soulages, vous êtes depuis février 2008 président du Secours catholique Caritas France. Autrement dit, vous dirigez l'une des plus importantes associations humanitaires de France. Il me semble que cette fonction est l'aboutissement de plusieurs décennies au service d'une même cause, d'une même idée, le bien des hommes, de tous les hommes, de chaque homme. Et pour résumer à grands traits votre parcours fécond, je rappellerai que vous êtes économiste de formation et que, après avoir commencé une vie professionnelle comme professeur d'économie, vous vous engagez à la fin des années 70, c'est inexact ?
Non, c'est bien.
Aux côtés de Michel Rocard, alors figure de la deuxième gauche. Pendant des années, vous allez défendre à divers postes le concept d'économie sociale. Vous fondez et présidez l'Institut de développement de l'économie sociale avant de prendre la présidence du comité chrétien de solidarité avec les chômeurs et précaires de 1997 à 2008. Chrétien de gauche engagé, je ne sais pas si vous retiendrez l'étiquette. Vous avez souvent déclaré qu'avant de critiquer la politique, il fallait s'y coller. Vous-même, en tout cas, ne vous êtes jamais défilé devant cette responsabilité. Et en préparant ce numéro spécial dont on parlait tout à l'heure, les catholiques et la politique, nous vous avons tout naturellement interrogé pour commenter le résultat du sondage que nous proposions à nos lecteurs. Et c'est une situation qui vous a fait réagir avec une certaine véhémence. Peut-être que vous nous expliquerez tout à l'heure le pourquoi de cette réaction. Et vous êtes également l'auteur, dans la même collection que M. Pinte, de « Immigration, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire ?» C'était en mars 2011 que le livre est sorti. Voilà, merci à tous les quatre de nous avoir rejoints ce soir. Excusez-moi si j'ai été un peu long, mais j'avais envie de vous présenter nos invités un peu complètement. Et je cède la parole à Monique Beaujard pour une dizaine de minutes.
Bonsoir à tous. À moi donc la redoutable tâche de vous dire un petit peu ce que les évêques veulent vous dire. Donc je me fais porte-parole, je ne suis pas évêque, vous en serez douté. Après Vatican V, semble-t-il. Donc voilà, on doit toujours faire plus attention quand on parle pas pour soi-même, mais quand on parle pour les autres. Le conseil permanent des évêques, c'est-à-dire un petit peu la dizaine d'évêques qui s'occupent plus de la gestion au quotidien, les évêques tous ensemble ne se retrouvent que deux fois par an, a publié une déclaration le 3 octobre 2011, élection, un vote pour quelle société? Que vous disent les évêques? Au fond, ils vous font comprendre que la foi, c'est comme une boussole. Une boussole, ça rend extraordinairement libre. Sans boussole, vous êtes obligé de suivre le chemin existant. Avec la boussole, vous pouvez vous aventurer où vous voulez. À vous de choisir si la voie passe plutôt à droite ou à gauche. Vous pouvez explorer le monde entier en gardant un œil sur Dieu, ce serait le nord absolu, et tout en aimant le monde. Donc, vous avez une boussole. Servez-vous-en, il n'y a pas de candidat désigné, il n'y a pas de programme désigné, mais évaluez vous-même ce qu'il y a à faire. Alors vous allez me dire, c'est un peu juste, et en fait, comme c'est quand même, les évêques sont quand même des pasteurs, et qu'ils ont le souci de vous guider, ils vous donnent quand même, je dirais, un relevé topographique pour vous situer un peu le paysage dans lequel vous allez utiliser votre boussole. Mais néanmoins, la responsabilité du choix, ils la mettent très clairement de votre côté. Ce n'est pas eux qui disent pour qui voter et comment voter. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le relevé topographique? Il signale trois évolutions majeures dans la société dont il pense quand même qu'il faut les prendre en considération pour déterminer son vote cette année. Il signale l'évolution technologique qui met la société quand même devant des nouveaux problèmes, devant des choix éthiques inédits jusque-là. Et qui pose la question de comment entendre la dignité de la personne humaine. La deuxième évolution qu'il signale, c'est que nous vivons aujourd'hui dans une société multiculturelle et multireligieuse. Ce qui a d'énormes avantages, mais qui ne va pas sans poser de problèmes. et qu'il pose notamment, pour beaucoup de gens, du coup, provoque le sentiment de ne plus être chez eux. C'est le sentiment qui est parfois perçu par les Français de souche ou dans un autre pays européen, les gens qui sont là depuis toujours, mais aussi par les nouveaux arrivants, qui se sentent mal accueillis et mal aimés. Donc une diversité avec laquelle nous devons compter et que nous devons apprendre à assimiler, qui est un vrai problème aujourd'hui. Et puis la troisième évolution majeure de la société qui signale, c'est le développement continu des droits individuels qui se développe sans que des devoirs se développent en même temps et que cet amoncellement de droits individuels finalement nuit à la cohésion sociale. Et c'est, en fait, si vous amoncelez chacun de son côté les droits, vous ne pouvez qu'être dans un antagonisme, mais vous ne trouvez pas la cohésion sociale. Pour cela, il faut autre chose. Donc, ils disent, ces évolutions-là, ils disent bien, il y en a d'autres, mais ces trois-là, quand même, leur paraissent les plus marquants et interrogent notre conception de l'homme et notre façon de vouloir vivre ensemble. Ils signalent au passage que, comme il y a un éclatement des valeurs, qu'il n'y a plus une seule référence morale, c'est les lois qui sont du coup chargées de prendre le relais. Tout, maintenant, doit passer par une loi, puisqu'il n'y a plus un accord sur des grands principes qui, de toute façon, guideraient aussi bien le vivre ensemble que les comportements individuels. Avec ça, ils insistent beaucoup sur l'importance de la fonction politique. Un chrétien doit s'y intéresser. Ne pas voter n'est pas une solution. De même qu'ils disent, en tant que chrétien, on doit avoir confiance dans l'avenir. Et Caritas in Veritate, Benoît XVI le soulignait justement aussi très clairement dans ce texte en disant, mais en tant qu'hommes et femmes, nous avons les moyens de corriger les dérives de notre société, de faire en sorte que ça aille mieux. Nous n'avons pas droit de désespérer. Certes, nous devons nous retrousser les manches, mais on a toujours cette possibilité de faire mieux. Donc, à la fois, il souligne l'importance de la fonction politique et il salue les élus et leur engagement. Il demande le respect pour ce travail qui est fait par les élus politiques. En même temps, ils disent, mais la politique ne peut pas tout. Il faut aussi avoir conscience des limites de la politique et un changement de mode de vie, de toute façon, s'annonce pour nous tous. Et ça, c'est un message que les évêques martèlent, qui, je crois, est peu entendu. Si vous reprenez les discours d'ouverture à l'Assemblée plénière de Lourdes du cardinal 23 depuis son élection en 2007, vous pouvez voir que chaque année, il y revient. Et chaque fois, il martèle. Notre société de consommation n'est pas tenable, ni pour nous, ni pour le reste du monde. Nous devons changer nos modes de vie, nous devons revenir à un autre mode de vie. Et en tant que chrétiens, nous avons à prendre ça en main. Et ce changement, il ne passe pas juste par nos appréciations individuelles. Il faut pour ça une conjonction à la fois de ce que nous faisons individuellement, mais aussi de ce que nous faisons collectivement. C'est un peu ce qu'on a développé dans un petit livre qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « Grandir dans la crise ». J'y reviendrai tout à l'heure. Cette déclaration des évêques, d'ailleurs, vous le trouvez dans le livre qu'a sorti le cardinal 23, dans lequel sont rassemblés un certain nombre de ces textes sur la question politique. Donc voilà, ils insistent sur ce changement de mode de vie, sur aussi notre conception de l'homme. Et puis, ayant passé ça en revue, ils disent, bon, voilà, on peut vous donner quelques thèmes qui nous paraissent importants, sur lesquels il faut quand même se pencher dans les programmes pour voir un petit peu ce que les différents candidats en font. Alors, il y a la vie naissante, la famille, l'éducation, la jeunesse, les banlieues, l'environnement, l'économie, la justice, la coopération internationale, l'immigration, l'handicap, la fin de vie, la culture, l'Europe, la laïcité. Ça fait un peu catalogue, mais ils disent très clairement, c'est pas du tout limitatif, ce n'est pas que ça, c'est pas énuméré de façon ni alphabétique ni par ordre d'importance, à vous de voir. Donc, encore une fois, on vous renvoie la balle, vous avez une boussole, servez-vous-en. Mais ils disent aussi que, bien évidemment, ce discernement auquel ils invitent les chrétiens, ce qui peut les guider, c'est la pensée sociale de l'Église. Ils insistent sur certains points. La pensée sociale, c'est un jésuite qui a dit un jour que c'était le secret le mieux gardé de l'Église catholique. Mais bon, ici au Centre Sèvres, au moins, vous pouvez suivre les cours pour apprendre la pensée sociale. Donc, juste, je reprends 2-3 points qui sont soulignés, si ce n'est tantôt dans la déclaration des évêques, autant dans les autres écrits, aussi bien du cardinal ou dans le petit livre « Grandir dans la crise » que les évêques du Conseil Famille et Société ont publié. Le respect de la dignité humaine, premier principe, qui veut dire respect de tout homme et respect de tout l'homme. Respect de tout homme, c'est-à-dire toujours cette attention, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont exclus? Qu'est-ce qu'on fait aussi pour l'étranger? Et le respect de tout l'homme, il n'y a qu'un L apostrophe qui change, mais c'est-à-dire aussi que l'homme n'est pas qu'un consommateur et producteur. L'homme est à prendre dans toutes ses dimensions. Ce sont des choses qui ont été déjà développées par le pape Paul VI dans Populorum Progressio et qui sont reprises longuement par Benoît XVI dans Caritas in Veritate. Donc l'homme est un être complexe. Dans la vie, toutes ses dimensions doivent être honorées. Si vous avez un programme qui prend l'homme que sur un biais, c'est qu'il n'est pas respectueux de la dignité de l'homme. Si vous prenez un programme qui respecte que certains hommes et pas les autres, là aussi, on n'est pas dans la ligne de la pensée sociale chrétienne. Deuxième pilier de la pensée sociale, le bien commun, qui n'est pas la somme des intérêts particuliers, mais qui est distinct, et qui est le bien du groupe, du bien de la collectivité. Pour le cardinal 23, il dit même que le bien commun n'est pas la même chose que l'intérêt général, parce que le bien commun comprend une dimension éthique en plus. Si on parle de bien, il faut bien pouvoir distinguer ce qui est bien. Et le leurre de la société de consommation, c'est de faire croire que si chacun satisfait à ses envies personnelles de consommation, ça entraînerait ipso facto le bien-être pour tous. Et c'est ça qui finalement, avec la crise, est apparu très clairement. Ce n'est pas parce que nous consommons, parce qu'on peut dire qu'en consommant, finalement, on entraîne l'économie et puis ça va aller mieux pour tout le monde. On voit très bien aujourd'hui que cette économie, ce système de consommation ne permet pas du tout de prendre en charge un certain nombre de besoins essentiels, non seulement dans notre pays, mais aussi dans le monde, parce que les inégalités se creusent. Ces deux principes, dignité humaine, bien commun, sont prolongés par deux autres principes, solidarité et subsidiarité. Subsidiarité, ça veut dire que chacun participe à ce bien commun. Ce n'est pas que au niveau politique de le faire, mais justement, le niveau individuel doit jouer avec le niveau collectif. Et puis, il y a beaucoup sur la solidarité, bien évidemment. La solidarité, comment la comprendre? La solidarité, ce n'est pas seulement la redistribution des revenus. Bien sûr, cela est important, mais ça ne peut pas se limiter à ça. La solidarité, ce serait pour quelqu'un qui est sans travail de pouvoir participer à un projet commun. Et à travers la solidarité, c'est tout le rôle du travail qu'il faut revoir, en fait. Le travail a une dimension objective, de gagner de l'argent, de faire une prestation, de gagner de l'argent, mais elle a une dimension subjective aussi. Ça permet à la personne de participer au bien commun. Et chacun doit aussi se demander en quoi son travail participe au bien commun. Et avec les abus dénoncés souvent pendant la crise, on commence ici ou là à mettre des points d'interrogation si certaines fonctions très bien rémunérées sont si utiles que ça pour le bien commun. La solidarité aussi, elle ne peut pas se concevoir seulement pour notre pays. Elle doit se concevoir à l'échelle européenne. La crise avec la Grèce nous en a donné l'exemple combien il est difficile de voir la solidarité au niveau européen. Et même plus largement, pour le monde entier, je veux dire, l'aide au développement et l'accueil des étrangers font partie de la solidarité. La solidarité qui doit encore s'étendre à l'environnement et aussi, quelque chose qu'on entend peu souvent, aux générations futures. Autant de points que vous pouvez regarder dans les programmes des candidats, qu'est-ce qu'ils en disent, les générations futures. La dette aujourd'hui, si elle s'accumule, elle viendra à la charge de nos enfants, petits-enfants. Voilà, j'y vais très vite parce que je pense qu'il me reste peut-être plus beaucoup de temps. C'est quelques grands principes de la pensée sociale. Si vous lisez les deux petits ouvrages, vous en trouverez plus de détails, plus d'exemples pour cela, mais ça donne simplement des grands principes pour évaluer un petit peu ce que les uns et les autres vous proposent. La boussole vous donne donc une liberté et en même temps une responsabilité. Et le cardinal 23 insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de confort à être chrétien, que la foi peut être un réconfort pour les pauvres, pour ceux qui sont affligés, mais que quand on est bien portant, finalement, on ne peut pas prendre la foi chrétienne comme s'installer confortablement dans un fauteuil au coin du feu, un verre de whisky à la main et mettre des lunettes roses pour dire « Ah, le monde est merveilleux ». Non, ça reste, l'évangile reste quelque chose qui doit nous titiller parce que autant on doit voir tout ce qui va de bien, tout ce qui va bien dans le monde, autant il est du devoir du chrétien de repérer où sont les nouvelles fractures sociales et de prendre cela en compte dans un programme politique. Il insiste beaucoup sur cet engagement qui doit être personnel et collectif et sur cette confiance dont les chrétiens doivent faire preuve dans un monde qui est quand même souvent pessimiste et où beaucoup de gens désespèrent justement de la politique et de la capacité même des hommes politiques à changer encore quelque chose. Donc au fond, les évêques vous laissent complètement libre et disent que vous avez la capacité de décider tout seul. Ça change pour ceux qui ont le plus de cheveux gris. Dans cette salle, on n'a pas toujours été habitué à une église qui nous dit « Mais vous êtes grand, allez-y, vous êtes tout à fait capable de décider tout seul ». Elle ne fait peut-être même pas encore toujours dans tous les domaines, mais enfin, elle fait au moins dans le domaine politique et dans le domaine des élections. Donc, il faut l'entendre, il faut le prendre comme ça. Ça demande un peu plus de travail que si on nous disait « faites comme ci, faites comme ça ». Mais je pense qu'on ne va pas regretter le temps où l'Église disait ce qu'il y avait à faire et qu'au contraire, cette liberté, on doit l'exercer. Une dernière chose. On insiste quand même sur le fait que être chrétien, ça doit quand même emporter une différence. Je veux dire, si c'est pour être comme tout le monde, alors où peut se situer aujourd'hui cette différence chrétienne ? Et cette différence chrétienne, ce n'est pas dit en toutes lettres, mais on peut le déduire, on peut le lire ailleurs. Elle pourrait se situer aujourd'hui justement dans une qualité relationnelle. Dans une société si individualiste, où la cohésion sociale est tellement mise à mal, ce serait à cultiver une qualité relationnelle. Et la différence chrétienne pourrait se situer dans ce domaine-là. Et en tout dernier lieu, alors j'aimerais vous confier une réflexion d'un évêque dont j'apprécie particulièrement la réflexion spirituelle, c'est de dire, ok, mais cette qualité relationnelle, comment peut-on la cultiver aujourd'hui? Et il fait son programme dans son diocèse autour de trois S. Le premier S, spiritualité, la relation à Dieu. Le deuxième S, solidarité, la relation à l'autre. Et comme je viens de dire, on insiste beaucoup sur les différentes formes de solidarité que nous avons à prendre en compte dans un programme politique. Le troisième S, il dit, c'est celui de sobriété. Nous ne trouverons pas la place pour l'autre, avec un petit A, pour l'autre avec un grand A, si justement nous ne changeons pas nos modes de vie et si nous ne faisons pas un pas vers une vie plus simple pour trouver ces qualités. Alors, est-ce que vous allez trouver après dans les programmes des candidats tout cela? Probablement non. Faut-il en conclure qu'on ne peut pas voter? Non plus. Je veux dire, il n'y a pas de société idéale. Le royaume n'est pas de ce monde et aucun royaume de ce monde est fait pour être le royaume de Dieu. Donc il faut aussi, à un moment donné, être concret, pragmatique et trouver le meilleur possible. Voilà, c'est à peu près ce qu'ils vous disent. Il peut encore rajouter que la question qui a été posée au cardinal 23 était sur l'intégrité personnelle des candidats. Et il a quand même eu l'honnêteté de répondre que s'il fallait attendre que le candidat soit parfait en tout, personne ne pourrait jamais assumer des fonctions dans n'importe quel pays. Voilà.
Merci Monique Beaujard pour cette parole épiscopale. Je crois que vous vous retrouvez bien aussi dans ces propos, dans ce que nous disent les évêques. Alors sans plus attendre, eh bien, je laisse la parole à Sylvie Goulard.
Bonsoir à tous. Merci d'être venus très nombreux. Moi, je vais vraiment suivre le conseil de Madame Beaujard, c'est-à-dire je ne vais pas parler pour les autres. Je vais vraiment parler uniquement en mon nom personnel. D'abord parce que quand on est élu, quelle que soit la foi qu'on peut avoir ou les convictions qu'on a, on représente aussi l'ensemble de la population, ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne le sont pas. Et j'y tiens beaucoup. D'ailleurs, la vie fait parfois des farces, puisque j'aurais pu ce soir vous parler d'un des candidats à la présidentielle qui ne cache pas qu'il est catholique, mais je travaille plus avec le président du groupe libéral et démocrate du Parlement européen, qui, lui, ne doit pas mettre très souvent les pieds dans une église. Et c'est la beauté du monde de travailler avec des gens très différents. Alors moi, je me suis posé la question. D'abord, j'aime bien la manière dont vous avez présenté les choses avec le mot « repère ». Je crois que la seule chose qu'on peut essayer de donner, le cas échéant, ce sont des repères. Et bien évidemment, chacun décide en son âme et conscience. J'ai pensé aux béatitudes. Je ne sais pas pourquoi, en préparant cette intervention. Et j'en ai choisi trois, parce qu'il y en a trois que j'aime beaucoup d'abord, et puis qui correspondent à trois raisons fondamentales, à mon sens, pour lesquels les chrétiens doivent prendre au sérieux cette élection présidentielle, même si je dirais par ailleurs qu'il faut la relativiser un petit peu. Alors, le premier, c'est la crise économique et sociale dans laquelle nous nous trouvons, qui est une crise particulièrement grave. Je pense que François Soulages sera encore mieux placé que moi pour en parler, même si je veux juste rajouter un petit élément à la biographie. Je suis très heureuse d'être depuis peu, d'ailleurs, la présidente de l'intergroupe de lutte contre la pauvreté au Parlement européen. J'étais déjà membre du bureau et on a déjà eu l'occasion de travailler notamment pour l'année européenne de la pauvreté. Mais ça va continuer. C'est un service. Enfin, moi, je le conçois comme ça, qui consiste à essayer de faire travailler les gens de groupes politiques différents autour de la cause de lutte contre la pauvreté, notamment avec l'appui d'ATD Carmonde, mais on travaille aussi avec d'autres associations. Enfin, en tout cas, première béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Je crois vraiment que la première raison pour laquelle il faut que nous nous mobilisions et que les élections, que ce soit l'élection présidentielle, législative, puissent changer les choses, c'est qu'il y a trop de gens qui souffrent dans nos pays. La deuxième, j'insisterai plus longuement là-dessus parce que c'est le sujet le plus spécifiquement européen et aussi de notre rapport au monde, c'est la manière dont nous concevons notre rôle dans la construction européenne. Et là, ça va peut-être vous surprendre, je m'intéresse pas qu'au jardinage, je pense vraiment que l'Europe ne peut tenir debout que si chacun des Européens qui la composent pense qu'il a vraiment un rôle personnel à jouer dans cette affaire. Et là, c'est la belle attitude des artisans de paix qui seront appelés fils de Dieu. L'Europe peut être en danger. Je trouve que les relations entre les peuples sont en train de prendre une tournure nationaliste et que là, les chrétiens, alors, si on peut marquer notre différence, c'est bien un sujet sur lequel il faudrait le faire. Et troisième chose, ce sont les idées funestes qui circulent en ce moment. Monsieur Pinte probablement en dira plus. J'ai beaucoup apprécié votre livre. Je l'ai lu pour ce débat. Et je crois qu'il y a une parabole qui dit « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Et je pense qu'il faut se dresser tous les chrétiens, contre les idées funestes de l'extrême droite dans ce pays et ailleurs. Alors la première chose, c'est la violence de la crise économique qui, je crois, interpelle toutes les personnes, et pas seulement les chrétiens, mais particulièrement les chrétiens qui sont soucieux d'équité et de partage. Je passerai assez rapidement sur le devoir de solidarité. Il est évident que la montée des inégalités est dénoncée par beaucoup d'économistes et constatée sur le terrain par beaucoup d'associations. C'est probablement, comme Madame Beaujard l'a dit, une question d'organisation de nos économies, c'est-à-dire c'est un rapport à la consommation qui finit par faire de nous des prédateurs de la planète. Et moi, j'insiste beaucoup, effectivement, sur le partage entre les générations. Je suis très inquiète que nous ayons atteint un point en Europe où on a l'impression, en tout cas dans certains États membres, que les jeunes générations sont les laissés pour compte, des jeunes qui sont souvent mieux formés et qui ne trouvent pas de travail, des jeunes qui sortent d'un système scolaire qui devrait être relativement sophistiqué et qui n'ont pas d'avenir, des jeunes qui ont du mal à se loger, etc., qui vivent aussi très souvent les conséquences de l'éclatement des familles, et qui en sont les premiers à payer les pots cassés. Et donc, pour ma part, je crois qu'il y a vraiment un élément extrêmement important dans la mobilisation qui est de tisser le contrat social entre les générations. Et là aussi, évidemment, chacun peut jouer un rôle dans sa famille ou dans son entourage. Et ce devoir de solidarité, moi, il m'invite à rassembler tout le monde. Vous allez dire, j'ai peut-être des idées bizarres, mais je siège à la fois donc à la commission économique et monétaire, ce qui m'amène à rencontrer souvent des banquiers centraux ou le patron de Goldman Sachs ou des gens comme ça qu'on a tendance à diaboliser. Moi, je ne diabolise pas tous les banquiers, ni tous les financiers, ni tous les assureurs. Je trouve que quand on jette des parties de la population à la vindicte collective, en général, ça se termine mal. En revanche, bien évidemment, et on y travaille énormément, il faut très précisément encadrer certaines activités, dénoncer certains abus, certaines rémunérations qui n'ont pas de fondement, etc. Et une de mes plus grandes satisfactions, parce que moi aussi j'ai besoin de temps en temps d'un peu d'espérance et de confiance, c'est d'avoir assisté à la remise du prix annuel que fait le magazine britannique Financial Times, qui n'est pas particulièrement tourné vers les questions qui intéressent Monsieur Soulages, mais vous allez voir la suite, justement, qui, avec Goldman Sachs, a donné le prix cette année à Esther Duflo, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Poor Economics. Je connais même pas le titre en français. Il a été traduit en français depuis, je crois. En tout cas, c'est une jeune femme française qui travaille aux États-Unis et qui a développé toute une analyse de pourquoi les politiques de lutte contre la pauvreté ne sont pas suffisamment performantes. C'est en fait parce qu'on les fait sans les pauvres, et donc il y a toute une réflexion. Voilà. Donc je ne dis pas que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qu'on va marier les pauvres et Goldman Sachs, mais je dis simplement que moi je vous invite quand même dans une société qui a tendance à être très manichéenne, notamment si vous allez un peu sur les blogs, si vous regardez ce qui circule sur Internet, où on juge les gens sur 2 années de leur vie parce qu'ils ont fait ceci ou cela, à regarder systématiquement exactement qui pratique la solidarité, qui ne la pratique pas, etc. Deuxième chose, sous cet angle donc de la réponse à la crise, moi je tiens beaucoup à dire qu'il faut faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que moi je suis très inquiète, et je vous le dis très sincèrement, de voir la tournure que prend l'élection présidentielle en France, quand tout parti confondu, on se retrouve à nouveau à nous faire croire qu'il y en a un qui va guérir les écrouelles par imposition des mains. Le système français, qui personnalise extrêmement la fonction, a quelque chose de vertigineux. Nous aurions besoin d'équipes, nous aurions besoin de réseaux, nous aurions besoin de personnes qui sont relativement humbles, qui admettent qu'elles font partie d'un jeu collectif, ce jeu collectif s'appelant l'Union européenne, s'appelant le G20, et on a une présentation, encore une fois, je crois que je critique personne en particulier, c'est la nature de l'exercice qui fait ça, qui insiste sur des pseudo-qualités individuelles qui, moi, parfois, me laissent un peu songeuse. Et le danger, c'est que si on élève le niveau d'attente, on fait, à l'élection suivante, monter l'extrême droite. Et je crois que c'est vraiment ce qui est en train de se passer, ou les extrêmes, d'ailleurs, parce que ça peut basculer de l'autre côté. C'est-à-dire que si des gens promettent des choses qu'ils ne tiennent pas, que ce soit l'augmentation du pouvoir d'achat, l'amélioration du niveau de vie, l'environnement, peu importe, et qu'il y a déception. Pourquoi ? Parce que personne ne peut tout seul régler toutes ces questions très compliquées. On se retrouvera avec, à l'élection d'après, encore plus de problèmes. Donc moi, j'attire votre attention là-dessus. Je crois qu'il faut un petit peu recadrer. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la crise ? Quelle est cette porte étroite, hein, pas celle du chameau, quelle est la porte étroite entre, d'un côté, l'illusion qu'on va pouvoir tout changer, et d'autre part, évidemment, le message désespérant qu'on peut rien faire du tout, qu'il n'y ait pas une solution non plus. On ne s'engage pas en politique en disant on va rien changer. Mais vraiment, j'attire votre attention là-dessus parce que je crois qu'on ne pourra trouver des solutions collectivement que si le pays se rassemble et si on n'assiste pas à un affrontement qui soit droite-gauche ou de je ne sais quelle nature, qui soit un affrontement funeste. Et je parle sous contrôle de gens qui connaissent l'Allemagne encore mieux que moi. Je suis très frappée de voir qu'il y a en France ce côté, quand il y en a un qui gagne les élections, il rafle tout. Au Parlement, pendant longtemps, on a considéré qu'il était normal qu'une majorité truste tous les postes, ce qui se fait pas de cette façon-là dans d'autres pays. Et à mon avis, c'est ça qui est aussi à l'origine du problème qu'on a dans notre pays, dans le rapport à la politique, c'est qu'on promet tellement sans pouvoir tenir qu'on se retrouve toujours dans la difficulté. Deuxièmement, donc, les artisans de paix. Ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors, je viens pas vous dire que tout va bien en Europe, c'est pas vrai. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des politiques qui doivent être corrigées, il y a des dérives qui existent. Mais, et certains pays européens n'ont pas respecté leurs engagements, ce qui explique un certain nombre de difficultés. Donc, je veux même pas devant vous aujourd'hui commencer à dire qui est responsable, etc. C'est pas la question. Simplement, moi, je vous invite, au moment où vous exprimerez votre vote, de réfléchir un instant sur la construction européenne. C'est un enjeu dont on parle peu, Mais c'est un enjeu qui est sous-jacent sur beaucoup de problèmes qui sont à traiter. Que ce soit la crise financière, si on veut pouvoir réguler les banques, elles ne sont pas seulement françaises, que ce soit l'environnement, le changement climatique dépasse nos pays, etc., etc. Et on a vraiment l'impression qu'en ce moment, il y a la tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, sans voir, et je ne vous parle même pas d'idéalisme européen, je vous parle de l'intérêt national, et je vais vous le montrer à deux niveaux. D'abord, moi je crois que fondamentalement, si on laisse se défaire ce qui a été construit, et on peut vraiment remercier les générations qui se sont engagées pendant des décennies pour ça, je ne sais pas où on arrivera. Je ne sais pas où on arrivera, et je pense que les chrétiens doivent œuvrer pour la paix et pour la coopération. S'il y a une mission, s'il y a une politique qui doit surplomber les autres, c'est celle-là. Et beaucoup de facteurs actuellement jouent contre. La difficulté matérielle, en général, rend les gens plus craintifs pour leur avenir. On assiste à ces phénomènes de repli qui sont nés aussi à ces mélanges de populations que Mme Bojard a évoqués. On a eu une gestion de la crise, et là je suis pour ma part assez critique, enfin ceux qui suivent ce que j'écris le savent, on a choisi des méthodes dans lesquelles on donne au gouvernement le premier rôle et pas aux institutions européennes. Alors ça peut vous paraître un peu abstrait, mais je crois qu'on peut prendre deux minutes pour en parler. Avec un exemple tout simple, si on laisse par exemple la France et l'Allemagne en première ligne, imposer à d'autres des mesures qui sont sans doute nécessaires, qui sont liées à des excès, elles seront attribuées au peuple allemand et au peuple français. Et on est en train, en se privant de l'effet, je dirais, matelas des institutions, de recréer de la division en Europe dans des proportions que je trouve inquiétantes. Dans les pays du Nord, il y a eu des journaux et certains, pas les autorités officielles, mais beaucoup de voix qui se sont mises à critiquer les pays du Sud, comme on ne l'avait pas vu depuis très très longtemps. Et on a au Sud des phénomènes de rejet de ce qui est perçu comme un diktat venant du Nord, qui encore une fois est en plus complètement inutile, puisque nous étions d'accord sur un certain nombre de règles, et que ce qui est important, c'est que ces règles soient respectées. Et que la vertu de l'Europe communautaire, elle est justement dans le fait d'avoir choisi des institutions, à la limite tapons sur la Commission, je préfère qu'on tape sur la Commission, je préfère qu'on ait une bureaucratie aveugle et sans visage, mais qu'on ne brûle pas des drapeaux allemands, comme ça a été le cas hier à Athènes devant le Parlement. Ça, c'est gravissime. Et là, moi, j'appelle à la mobilisation. Il y a un certain nombre de cheveux blancs dans la salle. Il y a un devoir des générations qui nous ont évité à nous de connaître les affrontements et la guerre à continuer à passer le message. Ce qu'on a vu déjà en termes de détérioration des relations est gravissime. Ensuite, évidemment, je vous dis, dans les politiques qui ont été menées ces dernières années, je crois qu'il y a des facteurs qui ont contribué. Donc, je ne dis pas qu'il faut choisir X plutôt que Y. Mais en tout cas, le retour du nationalisme est pour moi la menace la plus grande qui pèse en ce moment sur l'Union européenne, tout pays confondu. Deuxièmement, je crois que l'affaiblissement de l'Europe marquerait ou marque déjà un affaiblissement de notre propre pays. Hein, parmi les arguments qu'on peut opposer à ceux qui évoquent à la légère la sortie de l'euro, il y a tout simplement le fait que leur nostalgie n'existe pas. Ils parlent de retourner. D'abord, dans la vie, on ne retourne jamais en arrière. Mais on ne sait pas très bien à quoi ils retourneraient. Ils croient vraiment que la France ou l'Allemagne ou d'autres pays qui auraient été associés à un échec d'une telle ampleur, qui auraient été la cause d'une crise mondiale économique sans précédent, parce que ne croyez pas que l'éclatement de l'euro se ferait comme une partie de plaisir, que ces pays-là auraient une crédibilité nationale. C'est complètement ridicule. Ces pays-là seraient considérés par le reste du monde comme la bande de guignols qui, collectivement, ont mis en l'air l'économie mondiale. Et donc, je crois qu'il faut faire très très attention face au sort net de la démondialisation, etc., parce que, comme ça a été dit, le seul royaume qui compte n'est pas de ce monde, et que le nationalisme n'a rien à voir avec la chrétienté. Et la manière dont on essaye de mettre des frontières, des drapeaux, partout, autant on peut aimer son pays, sa culture, tout ça c'est très légitime, mais le fait de cloisonner à ce point les problèmes, le fait d'opposer les travailleurs des pays les uns aux autres, le fait de donner l'impression que c'est sur la nationalité que se fait le choix, c'est lamentable. J'ai été relire l'Épître aux Galates, c'est un texte que j'adore. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, il n'y a plus ni homme, ni femme, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors je sais que sur les femmes, l'Église n'a pas encore compris, mais enfin, ça fait que 2000 ans. Ça fait que 2000 ans, et encore une fois, je vous renvoie, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais à un magnifique travail qui a été fait pour les 50 ans du traité de Rome par la Comécé, qui avait réuni un groupe de grands Européens, qui avait produit, c'est sur le site de l'ARCOMEC, un texte qui s'appelle « Une Europe des valeurs, la dimension éthique de l'Union européenne » et qui montre à quel point la construction communautaire intègre les valeurs chrétiennes. Non seulement les valeurs de solidarité, mais aussi la tolérance que constitue la discussion à plusieurs et l'existence d'institutions, la méthode communautaire, tout ça, c'est de la chrétienté en acte. Et moi, je préfère les gens qui s'intéressent aux actes plutôt que ceux qui font des discours et qui nous parlent uniquement des racines comme d'une manière abstraite. Je crois que Robert Schuman, on n'a pas besoin de se demander s'il était très chrétien. Il a fait des choses, il ne s'est pas borné à les dire. Dernier point, je terminerai par là, sur les idées funestes des extrêmes. Et c'est là que j'ai découvert, parce qu'il faut toujours relire les textes, que le verset suivant, enfin ce qui suit dans l'Épître aux Galates, c'est « Je ne résiste pas au plaisir de vous le lire ». Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. On est tous les enfants d'Abraham. Les juifs, les musulmans, les chrétiens, pareil. Le week-end dernier, ça aurait été bien que quelques-uns s'en souviennent, qui ont un peu tendance à faire des hiérarchies entre les civilisations ou entre les êtres humains. Tous les fils d'Abraham. C'est pas compliqué. Et cette bataille-là, je pense que les autres en diront plus, mais j'en dis quand même un mot. Par exemple, ce que vous avez dit, Monique, sur « on se sent plus chez soi », moi, ça me fait extrêmement peur. Le « on se sent plus chez soi », c'est affreux. Parce que, très souvent, c'est suivi par la phrase « il faut les renvoyer chez eux ». Très bien. Et s'ils sont français, on les extermine ? Non, mais c'est une question que vous c'est une phrase que vous entendez souvent, y compris pour des personnes qui ont la nationalité de notre pays ou d'un autre État membre de l'Union européenne. Donc on ne renverra personne chez soi, et donc il faut qu'on vive tous ensemble. Et je conclue, parce qu'il faut parfois savoir un peu rire pour contrecarrer les vraiment mauvaises idées, que je suis toujours contente de voir que dans les sondages sur les plats préférés des Français, en général, le couscous est très bien placé. Merci.
Merci, merci Sylvie Goulard. En vous invitant, on savait bien à l'époque qu'il y aurait du débat, qu'il y aurait de la vie. Je crois que ça promet pour le débat tout à l'heure. Merci beaucoup. Sans plus attendre, je laisse la parole à Étienne Pinte.
Il y a un micro qui ne marche pas. Celui-là marche mieux ? Oui. Tout mon exposé sera sous le signe d'une autre phrase qui, pour moi, a toujours été très importante dans ma vie, dans mon histoire familiale. C'est « J'étais un étranger, tu m'as accueilli ». Nous sommes tous les étrangers les uns des autres, si on y prend garde. Pas seulement parce qu'on a une nationalité différente, parce qu'on a une religion différente, parce qu'on a une vie différente, parce qu'on est dans une société où les uns sont plus favorisés que les autres. C'est une des raisons pour lesquelles, à la demande de François Fillon, je préside depuis un an et demi maintenant le Conseil national des politiques de lutte contre l'exclusion et la pauvreté, où je me rends compte quotidiennement que nous sommes tous les uns les autres très souvent étrangers l'un à l'autre. Et ça n'est pas uniquement en fonction de nos critères de nationalité. Moi-même, j'ai été étranger, j'ai été naturalisé. Avec mes frères et mes parents, nous avons été réfugiés pendant la guerre, nous avons été recueillis par une famille de républicains espagnols à l'époque où mes parents étaient poursuivis par la Gestapo. Donc, je sais ce qu'est l'accueilli, je sais ce que c'est que le réfugié. C'est une des raisons pour lesquelles toute ma vie, si vous voulez, a toujours été orientée par le fait que je mets au centre de ma vie l'homme. De ma vie politique, mais je pense que tout homme, que ce soit sur le plan professionnel ou dans toute autre activité ou de responsabilité, pour le chrétien, il faut que l'homme soit au centre de sa vie. Et à partir de là, je pense que le regard que l'on peut porter sur la société, sur les responsabilités politiques que j'exerce, dans le monde économique, dans le monde social, doivent pouvoir s'éclairer. Cela étant, je reconnais très volontiers qu'aujourd'hui, nos concitoyens sont perturbés, sont déboussolés, sont, je dirais, mis en difficulté sur le choix qu'ils ont à faire dans quelques semaines. quel candidat, quel projet, quel programme, quel parti, à la limite, puisqu'il y aura des élections législatives ensuite. Et je comprends que nos concitoyens soient à l'heure actuelle, je dirais, très perturbés par les choix qu'ils auront à faire. Alors, selon quels critères ou selon quels repères, selon votre propre souhait, les chrétiens peuvent-ils essayer, je dirais, dans l'éventail de ce qu'il leur est proposé, que les candidats vont leur proposer, qu'ils soient candidats aux élections présidentielles ou ensuite les partis politiques au niveau des élections législatives. Sur quels repères se fonder? Il y a tout un éventail de repères. Il y a, je dirais, tout un bouquet de repères. Vous avez la place réservée, bien sûr, à l'être humain dans la société, la place réservée à l'être humain dans l'économie, la place réservée à l'homme dans la sphère sociale, le respect de la vie, la politique familiale, l'accueil de l'étranger, le respect de l'étranger, la dignité de l'étranger, la capacité à faire vivre la cohésion sociale, la justice. Le week-end dernier, j'étais invité par le journal Libération à Grenoble et j'animais une table ronde sur individualisme et solidarité. Est-ce qu'aujourd'hui, en raison de la crise, en raison des peurs, en raison des difficultés que nos concitoyens rencontrent, est-ce que ce repli naturel, humain, sur soi, ne risque pas de tuer le sentiment de solidarité? Personnellement, je pense que ce n'est pas le problème de l'individualisme qui risque de tuer la solidarité. Je pense que l'individualité de chacun d'entre nous doit permettre justement de faire vivre la solidarité. Un chiffre qui pour moi a été très réconfortant, c'est que durant l'année 2011, il y a eu autant d'hommes et de femmes qui ont donné pour faire vivre les associations, ont été des donateurs, autant et avec des montants globalement supérieurs alors que nous sommes en crise économique. Donc la solidarité joue. Ça veut dire que le réflexe de l'individu face à la pauvreté, face aux difficultés, a été, je dirais, positif, alors qu'on aurait pu craindre que l'individualisme le replie sur soi-même fasse qu'en raison des difficultés, chacun rentre chez lui dans sa coquille. Alors, pour essayer, je dirais, de participer, de contribuer en quelque sorte à la réflexion de nos concitoyens, sans, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, orienter le vote des uns ou des autres, avec Jacques Turc, donc le curé d'Issy-les-Moulineaux, on nous a demandé, les éditions de l'atelier nous ont demandé, dans le cadre d'une nouvelle collection, d'écrire un livre de réflexion sur l'extrême droite, les chrétiens ne peuvent pas se taire. Alors je ne vous cache pas que c'était le deuxième tome, François Soulages a eu le premier, j'allais dire qu'il avait de la chance d'avoir le premier parce que l'immigration m'aurait peut-être vraisemblablement plus plu que le second thème. Cela étant, et j'ai hésité, je dois dire j'ai hésité, parce que j'étais, je dirais, moins impliqué, moins investi dans les théories d'extrême droite. Cela étant, je me dis, si on t'a sollicité, si on t'a choisi, si on t'a demandé d'écrire avec le père Turc un ouvrage là-dessus, c'est qu'on attend quelque chose de toi et donc il faut que tu répondes oui. Et donc nous avons répondu oui. C'était un très long travail, 6 mois, depuis le mois de juillet dernier. Et l'objectif, c'était, bien sûr, de montrer comment des thèses d'extrême droite et le Front National en particulier, qui en est en quelque sorte l'expression politique, sont incompatibles avec l'Évangile et avec la doctrine sociale de l'Église. Mais nous avons voulu que ce regard croisé en quelque sorte se fonde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une page peinte, une page turque. On ne voulait pas qu'on dise « Ah ben ça c'est le curé, ça c'est le politique ». Nous avons voulu que véritablement il y ait communion en ce qui concerne la participation, la collaboration, la contribution que nous souhaitions donner pour éclairer les votes et les choix de nos concitoyens. Et le second objectif qui était très important pour nous également, c'était que ça ne s'adresse pas uniquement aux chrétiens, aux catholiques, pratiquants ou non, ça s'adresse à tous ceux qui partagent nos valeurs. Et pour nous, c'était fondamental que mes collègues chrétiens ou non de l'Assemblée nationale ou du Sénat puissent être tentés de lire ce livre, de façon à savoir si eux-mêmes sont chrétiens, si eux-mêmes ont quelques hésitations, et surtout vis-à-vis de ceux qui vont les élire ou les réélire, ils puissent aussi, je dirais, les orienter, leur faire partager en quelque sorte le travail que nous avons fait. Alors, qu'est-ce que nous avons souhaité dénoncer ? Quelles sont, à nos yeux, les incompatibilités entre les textes d'extrême droite et puis le message de l'Évangile, des Évangiles, des textes et de la doctrine sociale de l'Église ? La première chose que nous avons essayé, je dirais, de mettre en valeur, c'est de bien montrer que les peurs, les inquiétudes, les difficultés que vivent nos concitoyens et qui sont mises fortement en valeur par les thèses d'extrême droite ne sont pas des valeurs chrétiennes. En d'autres termes, qui dit inquiétude, qui dit peur, la solution pour ces thèses d'extrême droite, c'était le repli sur soi. On se renferme sur soi. C'est l'individualisme dont je parlais tout à l'heure. Et donc, repli sur soi, à titre individuel, rejet de l'autre, du différent, rejet forcément de toute, construction collective, telle que l'Europe, telle que la mondialisation, j'y reviendrai dans quelques instants, tout ce qui, en quelque sorte, peut rassembler les individualités, les hommes autour d'un projet commun. Et puis ça va très loin, puisque ça fustige bien sûr l'étranger, ça fustige bien sûr malheureusement aujourd'hui le musulman, on en a encore eu malheureusement une preuve pendant ce week-end, ce qui, j'ouvre une parenthèse, est très perturbant pour vous, mais très perturbant pour nous aussi, responsables politiques. J'ai vécu un très mauvais week-end. Imaginez que l'on puisse, comparer les valeurs respectives des civilisations est une aberration. J'ai vécu au Japon. Jamais je n'aurais imaginé comparer la culture japonaise à la culture européenne ou à la culture française. On peut très bien, comparer des régimes politiques. On peut très bien comparer des constitutions. On peut très bien comparer des activités gouvernementales. Mais vouloir en quelque sorte confronter, vouloir comparer des civilisations, à mes yeux en tout cas, c'est une absurdité, d'autant qu'en plus, ça avait, l'effet pervers de, malheureusement, de stigmatiser certains plutôt que d'autres. Indirectement, à partir du moment où il y a rejet de l'individu en collectivité, il y a également, remise en cause, qu'on le veuille ou non, des partis politiques, et grosso modo, indirectement, même si ça n'est pas dit, d'une certaine notion de la démocratie. Donc, nous avons voulu, en quelque sorte, démonter le fond, mais on a voulu également, déconstruire la forme. Les thèses d'extrême droite mettent toujours en valeur, stigmatisent ce qui ne va pas. On amplifie les problèmes de manière outrancière, à accroître en quelque sorte la peur et l'inquiétude de nos concitoyens, de les lever les uns contre les autres, d'attiser en quelque sorte leur jalousie. Et donc, nous avons essayé également de montrer qu'il existe, au travers de l'Europe, au travers de la mondialisation, même si c'est vrai, il y a eu des dérives, même si tout n'est pas parfait, la construction européenne est quand même quelque chose d'extraordinaire. La mise en commun depuis la CECA, l'Euratom, le marché commun, et puis quelque chose qui est quand même fondamental pour nous. Moi qui ai 4 générations d'officiers derrière moi, depuis grosso modo 70, 14, 18, 40, 45, on s'est toujours battu contre les Allemands. Et aujourd'hui est quand même l'un des grands acquis de la construction européenne. C'est le couple franco-allemand, c'est, la réconciliation allemande, même si vous avez raison de dire que celle-ci ne doit pas en quelque sorte, étouffer ou imposer en quelque sorte des diktats sur les autres pays. Et on a d'ailleurs, on l'a ressenti à un moment donné au moment où le président de la République a souhaité créer l'Euroméditerranée, où on a senti des tensions parce que, en quelque sorte, on ne voulait, je dirais, se retrouver qu'entre ceux qui sont sensibilisés par le bassin méditerranéen et pas les autres. Je voudrais également, nous avons voulu montrer dans notre texte que là où l'extrême droite veut semer la peur, l'Église est là pour manifester l'espérance. On a toujours rappelé que le discours de l'Église est un discours d'espérance. Nous avons lu, chaque fois qu'il y avait nous avons constaté des phénomènes de rejet, alors que l'Église prône l'accueil, le respect et la dignité. Il fallait rappeler tout cela. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé également dans les recherches que nous avons faites et les lectures que nous avons faites, c'est que depuis les années 70, puisque le Front National, pour ne pas le nommer, a été créé en 72, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai découvert ou redécouvert les positions de l'Église, les positions des évêques, les positions des papes, qui avaient été occultées, moins diffusées, pas diffusées. Et là, on a peut-être affaire, nous, en tant que chrétiens, certains mea culpa, parce que il a fallu, pardonnez-moi de rappeler ce que nous avons vécu le 30 juillet 2010, le discours de Grenoble. Le discours de Grenoble, le tocsin a sonné. Le tocsin a sonné et à partir de ce moment-là, je dirais, les responsables politiques, dont notre président, s'est rendu compte qu'il avait été trop loin en ce qui concerne le rejet des différents, des étrangers, des Roms, des gens du voyage. Et ça a été très intéressant de voir à tel point que dans les deux mois qui ont suivi, ça a été recevoir le cardinal, ça a été parérémonial et ça a été ce que j'appelle Canossa, la visite à Rome. Donc, si vous voulez, c'est à ce moment-là que, de nouveau, l'Église s'est fait entendre. Et c'était heureux. L'Église, comme ça a été rappelé, n'a pas à téléguider, n'a pas à conditionner. L'Église a comme objectif de rappeler les valeurs à partir desquelles nous avons à faire des choix. Et j'en connais très volontiers que ces choix ne sont pas faciles à faire pour vous. Et je ne vous cache pas, quelquefois, nous sommes interpellés aussi. Je voudrais terminer par est-ce que les chrétiens, quelles que soient les responsabilités qu'ils ont, qu'ils exercent, que ce soit sur le plan politique ou dans beaucoup d'autres domaines, quelle est l'influence qu'ils peuvent avoir sur les décisions et les décisions politiques? Moi, j'ai vécu assez longtemps à l'Assemblée nationale et j'ai pu voir à quel point la volonté qu'un certain nombre d'entre nous, même quand nous étions très minoritaires au départ, a pu faire modifier le cours des choses. Je me rappellerai toujours, commission des lois, avec mon collègue Goulard du Morbihan, nous avons été les deux seuls à nous élever contre l'ADN. L'ADN qui, à l'époque d'une loi sur l'immigration, devait en quelque sorte contrôler la paternité des enfants. Nous avons été deux au départ, et puis, pour finir, nous avons gagné, nous y sommes arrivés. J'étais très seul également en 2002 en ce qui concerne la réforme de la double peine. La double peine, je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que quand un étranger a commis un délit, il est condamné, ce qui est normal, il subit sa peine, mais de surcroît, le juge pouvait le condamner à une deuxième peine, c'est-à-dire le renvoi chez lui, dans son pays d'origine, même s'il n'y avait pas vécu, même s'il n'était pas né, même s'il n'y avait pas sa famille. Donc là encore, si vous voulez, c'était un combat rude avec Nicolas Sarkozy à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, mais nous y sommes arrivés. Donc à partir du moment où il y a volonté, où il y a ténacité, on peut y arriver. La déchéance de nationalité, même chose. Nous avons fait reculer le gouvernement, alors qu'à un moment donné, là encore, on a voulu, autre double peine, créer une autre double peine différente, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait été, un étranger qui avait été condamné, en récidive en particulier, on pouvait lui retirer sa nationalité française. Donc, vous voyez, nous sommes arrivés petit à petit, malgré tout, à orienter les choses. Alors, dans des domaines aussi fragiles, aussi délicats que sont les domaines de la bioéthique, là, c'est un exemple, je crois pouvoir le dire, je dirais, d'un travail long, fécond, entre majorité et opposition, pour arriver sur ces domaines aussi sensibles et aussi délicats que ceux-là, à apporter, pour finir, une réponse digne, une réponse qui, me semble-t-il, a été d'ailleurs salué au travers du dialogue qui a eu lieu avec l'Église, bien entendu. Là, nous avons fait vraiment œuvre utile, nous avons fait une œuvre dont nous pouvons être fiers. Et comme c'est une loi qui est révisable tous les 5 ans, c'est-à-dire la deuxième fois qu'elle a été donc votée, mais là aussi toujours avec un gros travail d'approfondissement, de dialogue, et pour nous ça a été très heureux. De même, la loi sur la fin de vie, là encore, une grande concertation, majorité-opposition, comme quoi personne n'a jamais le monopole de la vérité, et on doit pouvoir, sur des grands sujets de société tels que ceux-là, arriver en quelque sorte à nous mettre d'accord, ce qui est quand même, à mes yeux, fondamental. Alors, bien sûr, quelquefois, en tant que chrétien, bien sûr, il y a des moments où, pour moi, c'est moins difficile d'exprimer, non pas de façon ostentatoire, mais autant que faire se peut, on sait que je suis chrétien, on sait que je suis pratiquant, et jamais, à aucun moment, les positions que j'ai prises, les décisions que j'ai prises, même si elles étaient en contradiction avec mon propre parti politique très souvent, même si j'étais minoritaire, j'ai toujours été respecté. 1981, changement de majorité, il y a eu le premier grand débat de société qui était la peine de mort. La peine de mort. En tant que chrétien, bien sûr, j'ai voté l'abolition de la peine de mort. Mais beaucoup de mes collègues me disaient, tu es complètement fou, le Parisien libéré dit que 65% des Français sont favorables à la peine de mort, et puis toi, à Versailles, avec ton électorat, tu vas te faire éliminer la prochaine fois. J'ai dit, mais ce sont mes convictions de chrétien, je voterai l'abolition de la peine de mort. Je suis toujours là, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis en souriant quelquefois, dans le confessionnal de l'Isoloir, eh bien, nos concitoyens gardent leurs responsabilités et en toute conscience font les choix. Alors, je sais que cette fois-ci, les choix seront peut-être un peu plus difficiles, mais je leur fais confiance.
Merci beaucoup, Monsieur Pain, de votre réflexion et de votre témoignage. On aura sûrement l'occasion de revenir sur ce que vous avez dit dans le débat. Et on va terminer ce premier tour de notre première partie de notre soirée avec l'intervention de François Soulages.
Merci. C'est vrai que, parlant le dernier, vous devez commencer à être un petit peu fatigué, donc je vais essayer d'être un petit peu plus court que prévu. D'abord, un premier élément, vous l'avez dit tout à l'heure, vous m'avez effectivement catalogué de chrétien de gauche. Ben oui, je reste un chrétien de gauche, il n'y a pas de raison de se cacher derrière tout ce qui a été ma vie militante depuis un certain nombre d'années. Il n'empêche que, comme président du Secours catholique, je suis le responsable d'une association qui a, parmi ses bénévoles comme parmi ses donateurs, à peu près tout l'échiquier politique. Et donc, pour ceux d'entre vous qui suivent un petit peu l'actualité, je crois que nous essayons de rester fidèles à une ligne, et une seule, c'est de défendre la cause des plus pauvres. Mais attention, défendre la cause des plus pauvres, ça veut dire aussi, d'ailleurs, c'est notre troisième orientation, lutter contre les causes de la pauvreté. Et de ce point de vue, c'est vrai que ça nous amène à être assez souvent en désaccord avec un certain nombre de décisions, mais ça fait 50 ans que ça dure, et en 50 ans, il y a eu pas mal d'alternances, et je crois que la position du Secours catholique n'a guère varié pendant toute cette période. Alors, à partir de ce prisme qui est la défense des plus pauvres, sur quoi aujourd'hui nous mettons l'accent? Nous mettons l'accent sur 5 points, qui, vous le verrez, répondent à 3 repères. Les 5 points, c'est d'abord la cohésion sociale. Ça a été dit tout à l'heure, tout ce qui aujourd'hui conduit à opposer les uns contre les autres, eh bien nous le dénoncerons systématiquement. Alors de ce point de vue, il est clair que ce qu'a dit Sylvie Goulard, comme ce qu'est Chrétienne Pain dans son livre, nous va évidemment droit au cœur. Parce qu'une cohésion sociale ne peut exister que si on a envie que les gens vivent ensemble. Donc là, voilà, premier point, c'est la cohésion sociale. Le second point, ça c'est parce que c'est ce qu'on voit en permanence, c'est tout ce qui tourne autour du logement. Mais on prend la question du logement, non pas avec un nombre de logements à construire, encore que là, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut construire beaucoup plus de logements sociaux. Non, c'est comme une priorité que nous affichons, parce que pour nous, qui recevons des gens qui sont très, très, très mal, qui sont en grande difficulté, aussi longtemps qu'ils n'ont pas un toit stable sur la tête, vous ne pouvez pas reconstruire leur vie. C'est pas possible. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, le couple ne peut pas se retrouver, on ne sait jamais le lendemain matin où on va pouvoir s'installer. pour trouver un emploi, vous le perdez immédiatement parce qu'on n'arrête pas de vous prendre. Bref, si vous n'avez pas un logement stable sur la tête, vous ne pouvez pas entrer dans une logique d'insertion dans une vie normale. Pour nous, c'est la priorité des priorités. Je l'ai dit 50 fois déjà, notamment au ministre, monsieur Apparu. Il me répond à chaque fois qu'il n'y a pas d'argent. Je lui dis, ben l'argent, on ira le chercher ailleurs parce que vous perdez votre temps. Vous ne pouvez pas mener une politique de santé raisonnable. Vous ne pouvez pas mener une politique d'éducation raisonnable si les gens n'ont pas une stabilité. Alors vous aurez de l'échec scolaire, vous aurez des maladies incurables, vous aurez des situations sanitaires dramatiques parce que ces gens-là ne vivent pas correctement. Voilà. Donc vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est du gâchis de ressources que de ne pas mettre la priorité. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait le repère que j'ai retenu, mais là, sur le logement, c'est vraiment essentiel. Le troisième point, il concerne l'immigration, mais je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qui a été dit. Nous, on est chrétiens, et là-dessus, on a soutenu, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre « Immigration, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire », parce que les évêques de France avaient pris une position extrêmement courageuse sur l'immigration. Ils ont été largement critiqués par les chrétiens eux-mêmes. Je me rappelle d'un sondage de La Croix, peu de temps après la position des évêques sur les Roms, dans laquelle la majorité des catholiques marquaient leur désaccord avec la position des évêques. Moi, j'ai écrit un éditorial dans Message dans lequel je soutenais la position des évêques. Je n'ai jamais eu autant de courriers d'engueulade. Alors, ça m'a un peu énervé et j'ai pris la plume avec une théologienne qui est Geneviève Médéviel, qui est quand même la grande spécialiste de la question, ce qui fait que vous pouvez lire le livre. Il n'y a pas d'erreur théologique. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Geneviève. Moi, je risquais de faire des erreurs. Mais c'est vrai que c'était un peu le cri du cœur. C'est pas possible aujourd'hui d'avoir un discours dans lequel on dit qu'on ne peut pas accueillir dignement les gens qui sont présents chez nous. Attention, la phrase est complète. Accueillir dignement les gens qui sont présents chez nous. Je sais que c'est la position d'Étienne Panne, de Jacques Turc, de Monique, de tous les gens présents à cette table. Voilà. Mais attention, on n'est pas pour l'ouverture des frontières, quoi qu'il arrive. Mais c'est l'accueil inconditionnel des gens présents chez nous. C'était ça, les Roms. En plus, les Roms, je vous rappelle, ils sont européens. Et donc, comme ça, c'est encore un peu plus compliqué. Ah ben oui, non, mais il faut savoir aussi de quoi on parle. Les Roms sont aujourd'hui des Européens, pour en reparler. Le quatrième point qui nous importe, nous, c'est tout ce qui tourne autour de l'emploi et des ressources. On ne nous fera pas croire que dans la cinquième puissance économique du monde, on ne peut pas accorder aux personnes qui sont, du fait de la crise en particulier, privées d'emploi, et qui le sont depuis tellement longtemps qu'ils sont passés aux minima sociaux, qu'on ne peut pas relever sérieusement ces minima sociaux qui ne cessent de prendre du retard par rapport à l'évolution du niveau de vie. Savez-vous qu'en termes de pouvoir d'achat, le RSA aujourd'hui est inférieur de 25% à ce qu'était le RMI le jour de sa création. C'est ça la réalité des minima sociaux. Donc quand on demande le relèvement des minima sociaux, c'est simplement parce que ils ne cessent de perdre en capacité de pouvoir d'achat des gens. C'est déjà pas beaucoup, mais ils perdent un peu chaque année. Alors, sur l'emploi, on connaît la situation de l'emploi. Moi, j'ai quelques inquiétudes sur la possibilité qu'il y a aujourd'hui pour notre pays, malgré l'alliance indéfectible avec l'Allemagne, de retrouver rapidement des ressources. Et il faudra s'interroger d'ailleurs, ce que je ne ferai pas ce soir et puis je n'en ai pas la capacité, sur les raisons pour lesquelles notre pays n'a cessé de perdre de la compétitivité. Je n'arrive pas à croire que c'est simplement le coût du travail. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir des doutes là-dessus. Même dans votre majorité, Étienne, Monsieur le maire dit à peu près la même chose. En disant, attention, il n'y a pas que la compétitivité, le coût du travail. Il y a autre chose. Il faudrait qu'on réfléchisse sérieusement à ce que veut dire cette autre chose. Sinon, on ne trouvera pas de solution. Et puis, la dernière priorité pour nous, c'est autour de la jeunesse. Nous ne pouvons pas continuer à avoir une jeunesse qui se désespère chaque jour un petit peu plus, faute d'avoir un avenir. Alors bien sûr, c'est une partie de la jeunesse. C'est notamment tous ceux qui sont pas ou peu diplômés. Mais qui sont aujourd'hui, et ça je peux vous le dire parce que c'est la pratique que nous avons nous au Secours catholique, je vous rappelle quand même que chaque année on reçoit 650 000 personnes. Et qu'au total, nous aidons 1,5 million de personnes. Donc quand on parle des jeunes en précarité, nous parlons des 62 000 jeunes que nous avons physiquement reçus. Leur situation ne cesse de s'aggraver. C'est les premiers qui sont touchés par l'arrêt, par la crise économique, l'arrêt de l'intérim, l'arrêt des contrats à durée déterminée, et puis dans les entreprises, la règle du dernier entré, premier sorti. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des jeunes qui n'ont rien, même pas le RSA pour les moins de 25 ans. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Alors voilà, si je vous dis ces 5 points, c'est parce que je m'appuie sur 3 repères. Le premier, c'est le respect de la dignité. Notre combat au Secours catholique, il est autour du concept de dignité. Vivre dignement. Et vivre dignement, c'est reconnaître à chacun une capacité à pouvoir assumer sa vie de mère de famille. Enfin, quand on pense que dans les gens que nous recevons, et notamment dans les mères de famille d'enfants seuls que nous recevons, moins d'une sur 10 a un emploi durable. 9 sur 10 sont dans la grande précarité parce qu'elles ont, même si elles avaient un emploi, elles l'ont perdu du fait des conditions. L'enfant, il est malade. Enfin, vous avez vu récemment encore, il y a eu des procès. Un enfant malade, à répétition. Vous habitez dans la lointaine banlieue sur la RER B. Et vous avez, comme mes étudiants ce matin, 1h30 de retard parce qu'il n'y avait pas de train. Ou parce que, habitant dans le Val d'Oise du côté de Givors ce matin, les trains, ils avaient 2 heures de retard. Vous faites à répétition parce que vous habitez de plus en plus loin et vous perdez votre emploi. Et vous partez de plus en plus tôt parce que de toute façon, il faut arriver. Alors que deviennent vos enfants? Voilà, c'est ça la question de la dignité de la vie de tout homme. Ça, c'est notre premier repère. C'est le respect de la dignité de tout homme. Le deuxième, vous l'avez compris à travers l'immigration, c'est l'accueil inconditionnel de toute personne. Ça nous amène à avoir dans nos accueils plus de la moitié des personnes accueillies par le Secours catholique qui sont de religion musulmane. L'accueil de tout homme. Et le troisième repère, alors il va vous surprendre parce qu'il n'a pas été dit, c'est autour du développement durable. Mais là, moi, je suis économiste. Pour moi, le développement durable, c'est pas uniquement l'environnement. Le développement durable, c'est comment on utilise au mieux la capacité de chaque individu. Est-ce que le salarié, il est jetable? Non. Le développement durable, c'est donner à chacun la possibilité de s'insérer dans un métier, de le former régulièrement, de pouvoir s'adapter. C'est ça le développement durable. Et le développement durable, c'est ne pas gaspiller les ressources financières. La crise que nous avons vécue il y a maintenant pratiquement 4 ans, ben c'était justement l'inverse. C'est qu'on avait des ressources financières qui ont été utilisées pour trouver très rapidement des profits supplémentaires, c'est la crise des subprimes, qui avait tourné le dos. À quoi sert l'argent? Est-ce que l'argent, il sert à faire de l'argent? Ou est-ce qu'il sert à créer une société et effectivement d'assurer cette durabilité? Nous n'avons pas le droit de continuer à gaspiller ces ressources financières. Voilà les 3 repères. Alors, je voulais simplement vous dire 2 choses sur ce qui me paraît aujourd'hui manquer dans le débat politique. 1, je trouve que l'Europe ne tient pas une place suffisante. Et alors, pour le reste, je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Sylvie Goulard. Rien. Je suis entièrement d'accord avec elle. Mais notamment, je suis effrayé de voir aujourd'hui que notre Europe devient une Europe inter-gouvernementale. Voilà. Alors, il va y avoir un directoire de l'Europe. Alors, ça va être Madame Merkel. Le président Sarkozy, il a un petit peu de mal à suivre derrière parce qu'il n'est pas tout à fait la même puissance économique et pas la même situation. Mais c'est les gouvernements. C'est les gouvernements aujourd'hui qui gouvernent l'Europe et qui, du coup, sont en situation difficile. Parce que l'Italie, avec la situation qu'elle a, ne peut pas aujourd'hui être suffisamment marquante. Donc c'est l'Allemagne qui, du fait de sa puissance économique, mène la danse. Mais c'est pas comme ça qu'on construit une Europe. Donc il faut revenir, et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Sylvie Goulard tout à l'heure, il nous faut retrouver un ensemble d'institutions européennes dans lequel la solidarité entre tous les pays jouera son rôle. Moi, je regrette beaucoup, et j'ai justement sur le deuxième aspect que je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas beaucoup de discours, c'est sur l'aspect de la solidarité. On parle beaucoup de la solidarité nationale, l'impôt de solidarité sur la fortune, le revenu de solidarité active, mais tout ça, c'est de la solidarité institutionnelle. Quelle est la place de la solidarité volontaire? Or, et je suis d'accord avec Étienne, je suis convaincu que les gens savent être solidaires et généreux. Il suffit de le voir dans nos quartiers, dans nos rues, etc. Qu'est-ce qu'on attend? Et ça, c'est vraiment le message que nous voudrions faire passer, nous autres chrétiens. Qu'est-ce qu'on attend pour que dans les discours politiques, y compris dans cette élection, on fasse appel à la solidarité volontaire des personnes, qu'on fasse appel aux bons instincts et non pas aux mauvais instincts. Et je trouve qu'on n'insiste pas assez sur cette idée de solidarité. Parce que si on y réfléchissait, peut-être que justement, on travaillerait autrement, on intégrerait autrement cette question des immigrés. Et je terminerai là-dessus parce que Étienne m'en a parlé un petit mot, et Sylvie aussi. Je voudrais vous donner trois chiffres. Quand on parle d'immigrés, c'est ce qui est dans mon bouquin, quand on parle d'immigrés, il s'agit de savoir si on parle de 5 200 000 personnes, de 3 200 000 ou de 400 000. 5 200 000, c'est les personnes en France nées à l'étranger. Ils sont français, mais ils sont nés à l'étranger. 5 200 000. Dans le total, il y en a 2 millions qui ont été naturalisés, donc ils sont français. Il en reste plus de 3 millions qui vivent dans notre pays, qui ont parfaitement le droit d'être chez nous, puisqu'ils ont le contrat de travail, les autorisations de séjour, etc., mais qui sont étrangers, mais qui ont parfaitement le droit d'être là. Et il en reste entre 4 et 500 000 qui sont des immigrés étrangers sans papier. 400 000. Mais quand on parle d'immigrés, on met tout le monde dans le même sac. C'est 5 200 000 personnes, c'est pas de moi les chiffres, ils sont de l'INSEE, 5 200 000 personnes qui sont des gens qui ne sont pas étymologiquement français. Ils sont nés à l'étranger de parents étrangers. Ouais. Parce que je ne parle pas, bien sûr, qu'ils sont nés à l'étranger de parents français, ça, c'est pas du jeu. Mais qui sont vraiment, oui, ce qu'on pourrait appeler des immigrés. Voilà. Ma mère était une immigrée italienne, rassurez-vous, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue, je connais à peu près la situation. Voilà. Et moi, je vois dans ma commune, parce que j'habite à Nanterre, combien, spontanément, on mélange tout. Dans ma commune, aujourd'hui, il y a 7% d'étrangers. Mais il y a 25% de gens qui sont dans les 5 200 000. Mais on continue, y compris dans nos paroisses, à parler des immigrés comme si c'était tout l'ensemble. Et ça, il faut qu'on se batte là-dessus. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de se laisser avoir par des discours d'exclusion qui sont fondés sur des schémas de pensée qui sont des schémas faux. Et nous autres chrétiens, et racistes, absolument, tu as raison. Et nous autres chrétiens, nous devons faire l'effort de ce devoir de vérité. Ça nous oblige à nous informer, ça nous oblige à faire jouer notre intelligence, mais ça, on est là ce soir, et vous l'avez vu les uns et les autres, pour ne pas adopter les lignes de plus grande pente, de penser comme tout le monde, parce qu'on a du mal à résister dans une discussion entre nous. Il nous faut résister. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.
François Soulages, vous inquiétez tout à l'heure de prendre la... Vous vous inquiétiez de prendre la parole l'an dernier. Vous avez vu qu'on est resté bien éveillé. Il y a même eu quelques petits mouvements dans la salle à un moment donné. Donc on va rassurer tout de suite toutes les personnes qui auront des questions à poser. Elles pourront le faire tranquillement et on apportera, je suis sûr, des réponses tout aussi tranquilles et fermes. Merci à tous les quatre. On a un peu débordé, mais je suis sûr que vous ne nous en voudrez pas de l'horaire convenu. On avait espéré avec François pouvoir poser un certain nombre de questions à nos invités, mais je suis sûr que dans la salle, il y a un micro disponible pour ça. Vous aurez des questions tout aussi, sinon plus pertinentes que les nôtres. Et puis, il y a d'autres personnes dans des salles à côté qui n'ont pas la chance d'avoir ce micro, mais qui pourront être interrogées, enfin, qui pourront vous interroger tous les quatre par... petit papier que nous ferons remonter, mais on va d'abord lancer une première série de questions. Déjà, je vois une main qui se lève au fond de la salle.
Voilà, on va prendre deux ou trois peut-être questions, recueillir quelques-unes avant de redonner la parole à la salle.
Tout au fond également, après Antoine.
En fait, j'avais une question un peu pour chacun d'entre vous. On parle beaucoup on dit que les inégalités se creusent, on parle de richesses variables, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ceux qui en gagnent moins, etc., etc., et de redistribution. Mais je dirais pour construire, notamment quand on parle des gens qui sont en grande pauvreté, quel est le regard chrétien sur l'éducation? J'aurais aimé avoir une réponse de chacun d'entre vous sur cette question qui me paraît, à mon avis, fondamentale.
Là, tout en haut.
Je voulais savoir, avec votre expérience politique, quelle quantité de population immigrée la France peut accueillir avant de se trouver confrontée à des guerres tribales, des conflits ethniques à la Yougoslave.
Merci. Question qui est importante. Voilà, on va prendre la troisième.
Et même les dames ont le droit de poser des questions.
Oui, oui, c'est bien. Vous inquiétez pas pour ça. Ils le feront.
Il n'y a que des hommes qui lèvent la main en général. J'ai rien contre vous, monsieur.
Ouais. Une question d'un citoyen de base. J'ai l'impression que la France marche mal parce que les partis politiques, et donc les hommes et femmes politiques, sont trop souvent attachés à la conquête du pouvoir pour s'entendre, et le plus souvent possible, afin de faire marcher au mieux l'affaire France. Je fais donc appel là, je veux souligner peut-être parfois l'honnêteté intellectuelle des hommes politiques qui sont obligés, pour des raisons de parti, de parfois agir contre des idées évoquées par le parti adverse et de marcher un peu le doigt sur la couture.
Voilà, on va peut-être s'arrêter. On a pris les trois premières. On refera un tour tout à l'heure. Alors, il y avait une question sur les inégalités au début qui s'adressait à tout le monde. Mais est-ce que la question était assez claire? Oui, visiblement. Alors peut-être François.
Oui, c'était la question sur l'éducation. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'attendons-nous aujourd'hui de l'éducation? Est-ce que c'est remplir des crânes ou est-ce que c'est construire des personnes qui pourront se mouvoir dans la société? Ça, c'est la question qui n'est pas posée. Et donc moi, je crois que le regard chrétien sur l'éducation, c'est comment nous aidons chacun à trouver son chemin. Je dis bien, chacun à trouver son chemin. Voilà, je serai très bref là-dessus parce que je pense que c'est en effet comme ça qu'on peut rebâtir un système éducatif, parce que je suis effectivement pas, comme vous probablement, pas très heureux, même si je suis un enfant de l'enseignement public. Pour être tout à fait clair, aujourd'hui mes enfants dans ma propre commune ne sont pas absolument sûrs d'être tous des enfants de l'enseignement public quand on est dans une commune comme Nanterre. Et ça, c'est un grand malheur, un grand malheur.
Est-ce qu'il y a, sur ces questions d'inégalité,
oui. Vraiment très, enfin, c'est dommage, parce que vraiment les questions d'éducation, ça mériterait une soirée, mais deux remarques. La première, c'est qu'en tout cas avec ATD Quart-Monde et dans ce qu'on essaye de faire au Parlement européen, etc., il y a l'idée que tous les êtres humains valent quelque chose. Et qu'il ne faut pas considérer les exclus comme un problème à régler, mais se demander ce qu'ils peuvent apporter à la société. Et quand on va sur le terrain, quand on fait des rencontres avec eux, moi j'ai fait venir des SDF au Parlement européen qui ont chanté, etc., vous vous rendez compte que la perception est complètement différente, c'est un petit peu toute l'idée d'Esther Duflo, etc., c'est de ne pas considérer les exclus comme des gens différents, mais comme des gens qui y apportent. Deuxième chose, moi je pense qu'il y a une éducation à l'Europe et aux questions internationales qu'il faut inventer. Je pense que le plus grave fossé d'inégalité qui peut se creuser pour les jeunes générations, c'est l'accès au vaste monde ou le repli sur le village. C'est l'accès aux langues étrangères ou pas, l'accès aux échanges ou pas. Et moi, pour ma part, je me bats pour que tous ces programmes, tout ça, puisse concerner des enfants de tout milieu, absolument de tout milieu. Et je reçois beaucoup de classes au Parlement et je suis frappée de voir comme vous avez parfois des profs de zones d'éducation prioritaire, de lycées professionnels, agricoles, etc., qui savent ouvrir l'esprit des enfants et parfois des enfants de lycées dits classiques qui sont en fait, malgré toutes leurs opportunités, beaucoup plus éloignées de l'échange. Voilà. Donc c'était juste une petite remarque parce qu'on n'en parle jamais. On croit toujours que le multiculturel, ça va sortir comme ça, que tout le monde peut en faire, alors que c'est quelque chose qui s'apprend. Et au passage, en plus, on apprend beaucoup en termes d'humilité quand on est confronté aux autres. Donc ça aussi, au passage, c'est pas plus mal.
Justement, pour compléter, le regard chrétien sur l'éducation passe bien sûr aussi par la famille.
tout le travail qu'on a fait l'année dernière sur la famille, où on a parlé, j'étais d'ailleurs venu parler ici, des forces et faiblesses de la famille, on se rend bien compte que quand un certain nombre de compétences de base n'ont pas été acquises dans la famille, c'est extrêmement difficile par la suite, à l'âge adulte, de les acquérir. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec Sylvie, l'éducation, prochaine soirée éthique, François.
Oui, on va y penser.
La question qui nous interpelle tous, comment se fait-il que chaque année 150 000 de nos jeunes sortent de la scolarité obligatoire sans diplôme? Comment se fait-il que 17% de nos enfants de CM2 ne maîtrisent pas les quatre disciplines de base? C'est ça qui nous interpelle. Alors je reprendrai le problème un petit peu différemment, mais en repartant de ce que François disait en ce qui concerne l'une des priorités du secours catholique, qui est le logement. Pour moi, toute société équilibrée et harmonieuse repose sur quatre piliers. Le logement, la formation, l'entrée dans la vie active et la santé. S'il n'y a pas le logement, comment voulez-vous que les enfants et tous ceux qui sortent mal du système éducatif peuvent avoir eu, je dirais, une bonne formation? Comment peuvent-ils ensuite entrer dans la vie active avec quelque chance de trouver leur place? Et forcément, s'ils sont mal logés, il y a des problèmes de santé. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'animais un atelier, une table ronde aux semaines sociales à Villepinte sur l'hébergement. Et il y a une femme qui est venue me voir en me disant, monsieur le député, nous sommes à 7 dans 18 mètres carrés insalubres dans le 13e arrondissement. Pouvez-vous m'aider à trouver un logement? Bien là, j'avais, je dirais, la photo exacte de ce que je viens de vous dire. Logement, elle a ajouté, les deux derniers, la protection maternelle et infantile, veulent me les enlever parce qu'il y a des risques de saturnisme. Et donc là, j'avais regroupé, si vous voulez, tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le logement, donc les difficultés pour les enfants de se former, donc un jour les difficultés qu'ils auront à sortir du système éducatif et de trouver un emploi, et en plus les problèmes de santé. Et donc c'est sur, me semble-t-il, ces quatre piliers qu'on devrait jouer ensemble, de façon concomitante, et pas seulement sur le système éducatif. Le système éducatif, oui, mais ça suppose un environnement qui, malheureusement, pour tous ceux qui sortent du système éducatif en grande difficulté, ça veut dire que, donc, en amont, ils n'ont pas eu, je dirais, le minimum leur permettant d'avoir une bonne formation.
Merci. On va prendre la deuxième question. On ne les oublie pas, les questions. Une question qui avait fait agiter un peu la salle. Quelle quantité de population immigrée peut-on accueillir dans nos pays? On peut résumer ça sur la question du seuil de tolérance dont on avait parlé il y a quelques années. Est-ce que Monsieur Pain, vous voulez garder la parole sur cette question?
Je trouve que François, qui a fait un ouvrage là-dessus, alors, est peut-être plus à même que moi. Mais je suis prêt à compléter après.
Et peut-être on demandera aussi à Madame Goulard, il y a eu un important travail en Europe qui a été fait sur cette question de l'immigration. Les chrétiens ont pris une large part pour essayer d'harmoniser et d'humaniser cette politique d'immigration au niveau européen. Peut-être vous pourriez revenir sur ces questions.
Il n'y a évidemment pas de chiffres. La question est de savoir... D'abord, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait un bon nombre d'immigrés dans notre pays est une chance ou un poids? Alors, je vous renvoie au numéro spécial d'Enjeux les échos de cette semaine, qui démontre à toutes les pages que c'est une chance. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est l'Enjeu les échos, vous pourrez le trouver. Donc voilà, ça c'est la première des réponses. Les échos, c'est pas un journal très, très gauchiste. Le deuxième point, c'est que nous sommes, et Sylvie l'a très bien dit, nous sommes dans une économie totalement ouverte. Les produits circulent, les capitaux circulent, les personnes, elles vont circuler, et elles circuleront de plus en plus. Donc la question n'est pas de savoir combien on va pouvoir accueillir d'immigrés, entre guillemets. Je vous rappelle qu'il y a 3 millions de Français qui se promènent dans le monde entier. On en a 3 millions de chez nous, mais il y en a 3 millions qui se promènent à l'étranger. Et ça va continuer. Et regardez combien il y a de jeunes Français qui vont faire leurs études à l'étranger, qui d'ailleurs y trouvent des compagnons ou des compagnes, et puis ils y restent. Donc on est dans un monde complètement ouvert. Donc la question n'est pas le nombre. La question est de savoir comment nous pouvons aujourd'hui gérer dans de bonnes conditions l'intégration de populations dont la culture de base n'est pas exactement la culture européenne traditionnelle. Mais si vous les mettez dans des ghettos comme nous les avons dans un certain nombre de quartiers, vous êtes sûr d'une chose, c'est qu'ils ne seront jamais intégrés. C'est ça la question, c'est quels moyens on prend pour pouvoir les intégrer. Et deuxièmement, et ça, ça renvoie à l'Europe, oui, bien sûr, si on s'amuse à faire ça tout seul, le seul pays européen qui accueillera des immigrés lorsqu'ils sont chassés par la guerre, chassés par le climat, qu'il n'y a que la France, là, on aura un problème, qui est un problème d'accès. Mais si c'est l'ensemble de l'Europe, est-ce que vous croyez que tous ces immigrés qui quittent leur pays, ils le font par plaisir? Il faudrait peut-être aussi se poser la question de pourquoi ils viennent chez nous et quelle est notre responsabilité dans le fait qu'ils viennent chez nous. Parce que si on ne se pose pas toutes ces questions, alors effectivement, on dira qu'on ne peut pas accueillir plus de, je ne sais pas quoi, 1 million, 2 millions, peu importe le chiffre. Il n'y a pas de solution si on ne prend pas les problèmes à la base. Et là, j'ai un peu peur qu'on soit mal parti.
Si on prend les questions, cette question-là de manière un peu concrète, Madame Goulard, on a vu lors du déclenchement des révolutions du printemps arabe, un afflux de populations venues des pays du Maghreb arriver sur l'Europe. Et on a cru constater quelquefois des manques de solidarité, de coordination européenne sur ces questions. Pour
un afflux, 25 000 personnes pour 500 millions d'Européens, c'est un afflux. Non mais attendez, il faut raisonner. Et si je puis me permettre, et je n'ai rien à rajouter à ce qu'a dit François Soulages, mais juste une remarque. S'il y a eu le printemps arabe, c'est pas parce qu'avant on en a eu un autre avec ses chameaux qui était à l'hôtel de Marigny. Est-ce qu'on n'a pas toléré pendant des années à nos portes des régimes qui exploitaient leur propre peuple? Est-ce qu'on n'a pas eu des copinages scandaleux, je dis ça de droite, de gauche, du centre, c'est pas le problème, avec des gens qui n'ouvraient pas des perspectives? Vous êtes en Tunisie, mais vous croyez que vous avez envie de renoncer à la qualité de vie de Tunisie pour venir habiter en banlieue parisienne? Vous restez en Tunisie si vous pouvez. Donc la seule chose, c'est qu'il faut que nous ayons des politiques beaucoup plus ouvertes et actives avec ces pays-là. Il y a des tas d'expériences locales qui sont extrêmement intéressantes, d'agriculteurs en Provence qui se sont mis d'accord pour produire à des dates différentes. On ouvre à certaines saisons les produits, l'accès aux tomates parce qu'elles viennent plus tôt, et puis après on arrête un peu pour que ce soit les autres qui produisent. Il y a plein d'initiatives locales, donc ça doit venir bien sûr de la diplomatie, mais moi je crois beaucoup dans ce domaine-là à la coopération de collectivités locales ou d'ONG. Et franchement, arrêtons de faire peur aux gens. Maintenant, juste une petite remarque, parce que j'ai constaté ça pendant le débat. C'est génial parce qu'on est tous d'origine étrangère ici, quasiment. Monsieur Pinte est né en Belgique. Vous êtes ?
Hollandaise.
Hollandaise.
Italienne.
Moi, je suis 100% italienne. Et
moi, à moitié.
Alfred Grosser, merci. Est-ce que vraiment on aurait du mal à absorber des Alfred Grosser et des Robert Badinter en France ?
Je suis seulement breton. Hein. Alors, reprenons les choses. On va peut-être en rester là sur ce débat, non pas qu'il soit important, mais il y a tellement de questions que...
Juste une précision là-dessus.
Alors, une question, oui, précision.
Juste une précision. On regarde toujours l'immigration, on a fait comme si les gens venaient chez nous. On oublie qu'il y a une immigration sud-sud énorme et que notamment dans les pays arabes, la plupart des jeunes qui ont la possibilité n'ont pas du tout envie de venir vider nos poubelles ici, mais vont en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays où ils sont mieux accueillis et où ils ont d'autres possibilités. Donc on a parfois vraiment une très courte vue sur ces questions-là.
Alors, Étienne Pain,
une petite précision en ce qui concerne la politique européenne. Il n'y a à l'heure actuelle aucune politique coordonnée d'accueil des migrants en Europe. Nous sommes pourtant 27. Est-il normal que ce soit toujours les mêmes, je dirais l'Italie, l'Espagne et la France, pour parler court, qui soient amenés en quelque sorte à résoudre les problèmes d'immigration? L'année dernière, nous avons reçu en 2011, je fais partie de l'OFPRA, 60 000 demandeurs de statut de réfugiés politiques. Nous sommes le deuxième pays après les États-Unis. Est-il normal que nous n'arrivions pas à avoir une législation solidaire et partagée avec nos collègues de l'Union européenne? Et les 25 000 dont on parlait de Tunisiens, j'avais été avec Christine Lagarde pour les premiers contacts après le départ de Ben Ali en Tunisie. Et le gouvernement nous a dit, vous nous aviez promis ce qu'on appelle les migrations circulaires, c'est-à-dire de prendre pendant 5 ans pour les former, que ce soit des diplômés ou que ce soit des Tunisiens non qualifiés. Est-ce que vous allez respecter votre engagement? Et à ce moment-là, je me suis dit, revenant en France, que les pays du Nord et l'Allemagne en particulier avaient chaque année besoin de centaines de milliers de migrants pour leur développement économique et leur croissance, en raison d'un détériorement d'une démographie très, très, très négative. J'ai donc sollicité l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, que je connais bien, c'est un ami, en disant, écoutez, vous prenez des centaines de milliers de Turcs et de Polonais chaque année, est-ce que vous ne pourriez pas faire une petite place aux Tunisiens? Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse satisfaisante.
Alors, il y a beaucoup de questions. Je voudrais rester avec M. Étienne Pain parce que ça touche un peu à l'engagement politique et Sylvie Goulard pourra aussi compléter. C'était la troisième question qui a été posée. C'est finalement, entre autres visées, l'action politique, elle vise d'une certaine manière aussi la conquête du pouvoir. Alors, est-ce que dans cette conquête du pouvoir, il n'y a pas un risque que se perde un peu le souci du bien commun, le souci de la France? Et puis, il y a une question qui est arrivée sur un morceau de papier. En tant que parent, comment intéresser une jeunesse désabusée aux questions politiques? Vaste chantier. Étienne Pain, Sylvie Goulard, peut-être. Aussi brièvement possible, même si je sais que c'est très difficile
c'est
de répondre.
C'est vrai que la conquête du pouvoir, et on le vit malheureusement tous les jours aujourd'hui, créer, je dirais, de la démagogie, il faut le dire, créer des fantasmes, créer, je dirais, des espérances qui ne pourront pas être nécessairement tenues. Et donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il est tellement difficile pour nos concitoyens, qu'ils soient chrétiens ou non, de faire des choix, parce qu'ils ont été déçus. Et donc aujourd'hui, et en particulier pour les jeunes, c'est pas évident, je dirais, de s'engager. Simplement, je dis, pour les jeunes, en tout cas, inscrivez-vous, si vous ne l'êtes pas, c'est trop tard, mais il y en a beaucoup qui ont été inscrits avant le 31 décembre, et surtout, allez voter, car je ne veux pas qu'on critique ensuite la majorité, quelle qu'elle soit, qui sera au pouvoir, et que vous n'ayez pas, je dirais, fait votre choix, que vous n'ayez pas mis un bulletin dans l'urne. Il est fondamental, au moins, qu'en tant que citoyen, vous participiez, je dirais, à cet acte civique. Et puis, les jeunes en particulier, au travers du monde associatif, ont un rôle, me semble-t-il, très important à jouer. Aujourd'hui, le monde associatif est extraordinaire. Vous rendez compte que, en tant que responsable politique, le monde associatif, à mes yeux, est là pour amortir, je dirais, le fait que l'État et les institutions publiques sont déficitaires en matière d'action publique, en matière d'action sociale. Et donc, le monde associatif aujourd'hui, heureusement qu'il est là, parce que sinon, je dis quelquefois, ça fait sourire, il y a longtemps qu'on aurait une révolution dans ce pays. À partir du moment où l'État régalien n'accomplit pas, je dirais, ses responsabilités essentielles, et en particulier chaque fois de rétablir la société, chaque fois qu'elle est déséquilibrée, chaque fois qu'elle est en désharmonie, c'est à l'État régalien à rétablir les équilibres et les harmonies, et surtout vis-à-vis de nos concitoyens, naturellement, qui sont dans les situations les plus précaires.
Voilà. On va rester dans la lumière.
Très rapidement, sur la conquête du pouvoir, je ne suis peut-être pas un bon exemple, mais vous avez vu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les banquiers. Rien qu'avec ça, je ne devrais pas être réélu en 2014. Non, je plaisante. Il y a vraiment de tout, je dirais, dans la vie politique. Vous avez des gens qui se préoccupent essentiellement de leur réélection ou de la conquête du pouvoir. Et vous avez énormément de personnes beaucoup moins connues. Je pense à un certain nombre de collègues députés européens dont le nom ne vous dirait absolument rien, qui font un boulot formidable pour l'intérêt général. Et effectivement, le décalage, c'est que les projecteurs sont braqués souvent sur ceux qui sont le plus dans cette course. Vous avez aussi des tas d'exemples de maires de petites communes, de gens qui font un travail fabuleux sur leur temps libre. Donc, je crois qu'il faut vraiment éviter de mettre tout le monde. Mais vous avez raison, la conquête du pouvoir finit, pour certains en tout cas, par devenir une fin en soi. Moi, j'étais extrêmement choquée un jour d'une phrase de Jean-Claude Juncker, que j'aime bien par ailleurs, qui a dit « Nous savons tous ce qu'il faut faire pour justement... » Ça répond à la question très importante qu'a posée François Soulage sur comment on en est arrivé là, pourquoi on n'a pas de compétitivité. Mais si on le faisait, on ne serait pas réélu. Moi, j'ai tendance à penser que si on le fait et qu'on n'est pas réélu, eh ben, c'est très bien. Et je signale qu'il y a quand même un pays d'Europe en ce moment qui est un vrai laboratoire d'une nouvelle manière de faire de la politique, qui est l'Italie. L'Italie est un pays dans lequel une classe politique assez spéciale a été... par la volonté du président de la République, auquel on ne rend pas assez hommage dans cette affaire, chassé du pouvoir, on a mis à la place un gouvernement qui est extraordinairement compétent. Donc le test, c'est combien de temps un gouvernement extrêmement compétent et non démagogique peut rester au pouvoir en Europe. Sur la jeunesse, moi, je ne partage pas l'idée que les jeunes sont tous désabusés. Je trouve que c'est pas sympa. Ça fait partie des stéréotypes. Là aussi, dans la jeunesse, c'est comme chez les personnes âgées, c'est comme chez... Vous avez des jeunes qui sont fabuleusement engagés, qui n'ont qu'une envie. Moi, je reçois des CV de jeunes qui ont 22 ans, ils ont passé tous leurs étés à faire des chantiers, des machins, ils sont déjà allés en Afrique, en Inde, ils ont pris tous les risques possibles et imaginables. Même un enfant qui s'est mis dans la tête de faire des trucs comme ça l'été prochain, ça ne me réjouit pas forcément. Donc, franchement, ils sont, je trouve, pour certains, très engagés. Et comme ça a été dit, je ne dis rien de plus, je pense que probablement un bon sas pour l'engagement politique au sens le plus noble du terme, c'est peut-être la vie associative. C'est-à-dire que ça permet de toucher du doigt des réalités du travail au bien commun sans avoir forcément l'encartage, l'étiquette, etc. Et par contre, dans les partis politiques, vous avez parfois des bébés qui sont absolument odieux. Je me souviens quand Giscard avait fait la convention chargée de rédiger le traité constitutionnel, il avait voulu organiser une réunion avec les jeunes. Eh bien, quand c'était les partis politiques qui nous avaient envoyé les petits jeunes, c'était pas toujours, faut pas généraliser, mais c'était pas toujours génial. Alors que, encore une fois, dans la vie associative, moi, je tire mon chapeau à la jeunesse de France et d'Europe.
Nous avons reçu sur ces feuilles beaucoup de questions des personnes qui nous écoutent dans les salles à côté. Alors on ne pourra pas toutes les prendre, mais on va en prendre une. Alors je me tourne vers François Soulages pour lui poser, parce que je me souviens qu'il y a quelque temps, on a eu une réunion avec un collectif d'associations de services d'église autour d'une grande opération qui va être conduite pendant plusieurs mois, qui s'appelle Diaconia. La question est la suivante. On a beaucoup parlé de solidarité au cours de la soirée, j'imagine aussi dans les médias et au cours de cette campagne, mais n'est-ce pas plutôt de fraternité dont notre pays a besoin, ce troisième pilier de notre République? Pourquoi en parle-t-on si peu? Alors, François, est-ce que solidarité, fraternité, c'est pas un peu la même chose malgré tout?
Non, ce n'est pas la même chose. Derrière le mot de solidarité, il y a le fait que chacun d'entre nous peut faire quelque chose en enlevant une partie de ce qu'il a pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est souvent de l'argent ou du temps. Mais c'est une relation qui risque d'être une relation descendante ou surplombante. La fraternité, c'est complètement autre chose pour nous chrétiens. La fraternité pour nous, c'est l'autre, il est mon frère aux yeux de Dieu, et nous sommes également les mêmes égaux, nous sommes frères d'un même père. Et ce n'est pas un truc bidon, c'est une obligation qu'on se donne, c'est-à-dire que l'autre, il est mon frère, et c'est pour ça qu'on a l'accueil inconditionnel. L'autre, il est là en face de moi, je n'ai pas le choix. Et je dois le traiter comme j'entends être traité moi-même. C'est ça la fraternité. C'est donc extrêmement compliqué à vivre. Et je peux vous dire que nous, au Secours catholique, de temps en temps, on voit des gens un peu déglingués ou d'autres qui se sont mis dans des situations... Enfin, demandez à ceux qui font les visites de prison, par exemple. Ben, c'est pas évident. Bon. Voilà, donc le concept de fraternité, c'est très simple, c'est ça. Alors, je prends appui sur une citation de Benoît XVI pour essayer de me faire comprendre. Parce que derrière le mot de fraternité, il y a totalement l'idée de la charité, mais la charité telle que Benoît XVI l'a définie, et ça revient exactement au point antérieur. Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, vous verrez, c'est au paragraphe 6, c'est dans l'introduction, il dit qu'aujourd'hui le combat pour la justice est un combat premier avant le combat pour la charité. Parce que tout homme doit être d'abord rétabli dans son propre droit, dans ce qui est à lui. Et après, on lui apporte ce qui est à nous. Mais vous voyez, la fraternité, c'est ça. C'est le rétablir chaque personne dans son droit. C'est-à-dire ce qu'on fait, nous, régulièrement, au Secours catholique, dans tout ce qu'on appelle l'accès au droit. La charité, c'est pouvoir partager avec lui ce qui m'appartient à moi. C'est le partage de l'avoir, du savoir, enfin bon, on peut compléter. Mais vous voyez, donc, l'idée de la fraternité est une idée qui est profondément politique. C'est-à-dire peut-être pour ça qu'elle est au fronton de nos mairies, sauf qu'on l'a oublié. Alors, de ce point de vue, c'est d'ailleurs intéressant, parce qu'on se retrouve quand même avec beaucoup d'humanistes qui ont bien l'idée de fraternité, sauf que nous, on sait un peu plus ce que ça veut dire. Nous, c'est l'autre, il est mon frère, j'ai pas le choix. Et donc, le combat pour la justice, elle trouve sa source dans la fraternité. Alors, évidemment, combat pour la justice, c'est quelque part un peu de faire de la politique, puisque la justice dans un pays comme le nôtre, c'est s'adresser en permanence aux institutions politiques. Donc dès lors que je m'adresse aux institutions politiques, je fais de la politique. Ça, j'ai pas le choix. Les mots sont là. Mais vous voyez, le combat pour la justice, c'est une manière, et c'est en cela que j'encourage vivement ce que disait Sylvie à propos des jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui s'engage au Secours catholique, il s'engage à la défense d'une cause, et cette cause, elle est en regard des institutions politiques. C'est donc une cause politique, pas politicienne, ça n'a rien à voir. Mais c'est une cause de fonctionnement de notre société. Et je trouve que c'est un très bon sas pour éviter d'être un petit bébé politique, comme tu disais tout à l'heure. Mais ça, c'était méchant.
Non, c'est pas méchant, c'est drôle.
Oui, c'est drôle. J'ai connu ça aussi, d'ailleurs.
Monique.
Sur la fraternité, si... En fait, c'est une notion qui figure dans la devise de la France, mais quand on regarde l'évolution du droit, l'accès est mis aujourd'hui sur la liberté et sur l'égalité. Et c'est notamment l'analyse qu'on avait faite l'année dernière sur la famille. On voit très bien que la liberté est garantie à tout niveau. L'égalité, qui n'existait pas dans le droit de la famille, mais existe aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais après, ne vient pas la fraternité, mais vient la notion de respect. Ça, c'est tout à fait introduit dans le droit français. Le respect qui se doit entre les époux, le respect entre parents et enfants, etc. Mais le respect reste bien en deçà de la fraternité. Le respect est simplement de ne pas nuire à l'autre, de ne pas lui faire du mal. La fraternité, c'est se soucier de l'autre. Et c'est là qu'on retrouve, en fait, ce que Benoît XVI dit à plusieurs endroits, dans Caritas in Veritate, cette idée de l'homme qui est un être relationnel, donc qui existe et qui s'épanouit à travers la relation avec d'autres. Et quand on se sait un être relationnel, on se doit donc de se soucier de l'autre. On ne peut pas faire juste s'arrêter, oh ben, le respect. Voilà, je le respecte, je lui fais pas de mal. Mais se soucier de lui. Et ce pas-là, dans notre société individualiste, ben, il n'est pas fait automatiquement. Et c'est nous, en tant que chrétiens, on a tout à fait à soutenir ça. Et ce que fait François beaucoup dans Diaconia, en effet.
Merci. Le temps avance. Je voudrais que l'on reprenne un petit temps de questions. On va prendre deux questions dans la salle et puis on en prendra une sur les nombreuses questions qui nous viennent sur papier des autres salles. Alors, y aurait-il... au milieu, je crois que vous aviez demandé, Antoine, voilà. Levez bien la main, voilà. Le micro va vous parvenir et puis après, il y aura Madame.
Bonjour. J'aurais aimé entendre parler ce soir, ça va être le cas maintenant avec cette question, de l'économie sociale et solidaire, de son renouveau, pas du maintien des structures traditionnelles et des activités traditionnelles de ce secteur-là, mais de son renouveau, c'est-à-dire de ces entreprises qui sont des entreprises d'intérêt général et qui concilient, sans doute dans un esprit chrétien sans le savoir, créativité, responsabilité et bien commun.
Merci. Alors, levez bien la main, madame, pour qu'on vous voit. Antoine, pour faire passer le micro. Voilà. On va faire passer le micro, si vous voulez bien avoir un geste citoyen pour que la parole circule. Voilà.
Évidemment.
Parlez bien dans le micro, madame.
Nous avons tous très bien compris pour qui il ne faut pas voter. C'est déjà important quand on est chrétien. Mais il me semble qu'on a peut-être un petit peu trop parlé de ce qu'il ne fallait pas faire. Enfin bon, je regrette, c'est tout. Encore que je n'ai jamais pensé qu'on pouvait, quand on était un chrétien convaincu, engagé, voter Marine Le Pen. Mais enfin, ça c'était personnel. Pendant les Trente Glorieuses et après, bien que Jean-Paul II ait intégré l'option préférentielle pour les pauvres dans l'enseignement social de l'Église, je suis un peu désolée, je sais que Mme Gojard ne m'en voudra pas. Parce que
allez-y, posez votre question.
Les évêques sont libres, heureusement, bien sûr. Mais je trouve que pendant tout ce temps-là, les gens de terrain, et j'en étais, n'ont pas eu pour lors beaucoup, ni d'écoute ni d'aide, ni des partis politiques, ni des structures de l'Église de France. Vouloir faire vivre, enfin, maintenant, la préférence des pauvres, c'est heureux. Mais il y a quand même un risque dans l'actualité d'une campagne de s'occuper des pauvres, c'est déjà très important, mais est-ce qu'on ne va pas utiliser les mêmes mots, les mêmes anathèmes que ceux qui, s'ils sont élus, feront voter des lois que les chrétiens que nous sommes ne souhaitons pas? Je prends un exemple tout bête, l'euthanasie dans le projet de M. Hollande, par exemple. C'est une chose qu'on parle beaucoup de Mme Le Pen à juste titre, mais quand on vous dit que l'euthanasie et puis peut-être supprimer des aides aux familles, je ne crois pas que ce soit très chrétien.
Voilà.
Maintenant, M. Soulage...
On va vers la fin de votre question, s'il vous plaît.
Je voudrais dire à M. Soulage que si dans son édito du message de février, que je reçois régulièrement, vous revisitez les trois piliers, de la devise nationale, c'est, je pense, que vous parlez de la France. Je ne vois pas autrement pourquoi. Mais n'empêche que vous dites, la liberté n'est, vous écrivez, pardon, c'est pire, la liberté n'est que théorique pour la plupart des personnes. Oui. En France, la liberté n'est que théorique.
Voilà, vous allez vers la fin de votre question, s'il vous plaît.
Il n'y a pas d'égalité dans l'accès à la connaissance, au pouvoir, à l'emploi. Ce sont des inégalités qui rongent notre société. Voilà la France que vous décrivez aujourd'hui.
On a vu à peu près ce que vous vouliez dire.
À moins que la société que vous décrivez soit celle établie par l'ami des riches, faudrait-il...
Voilà. Bon, je crois qu'on a compris.
Vous dites... Non, attendez, je voudrais finir ma phrase.
Terminez votre phrase et puis on pourra donner du temps à la réponse, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà, il y avait une autre question. Chut. On essaye de s'écouter. Voilà, il y avait une autre question sur la feuille.
Alors, il y a une autre question qui concerne l'Europe. On a beaucoup parlé de l'Europe, et il y a une question qui est remontée. Je la simplifie, je la raccourcis, puisqu'elle était aussi...
Parle plus fort.
Puisqu'elle était aussi préparée et relativement longue. On parle d'un mépris profond du suffrage universel, de la parole du peuple, des pauvres en particulier... renvoyé à une Europe qui paraît lointaine, à des politiques qui font passer des traités contre la vie des peuples, qui est un symbole, donc, cette Europe, d'une crise de la représentativité politique et de la démocratie en général. C'est une question qui, j'imagine, s'adresse plus particulièrement à Madame Goulard, à Monsieur Pinte.
Voilà, donc pas mal de choses pour le dernier temps de notre débat. Il y aurait encore beaucoup d'autres questions, mais si on veut avoir le temps d'entendre nos intervenants. Sur l'économie sociale et solidaire, je crois qu'effectivement, oui. François...
C'est ou deux mots ou la soirée.
Alors deux mots.
Comme on n'a pas la soirée. L'économie solidaire aujourd'hui, c'est toutes ces entreprises qui ont décidé qu'elles étaient là pour produire des biens et des services dont notre société a besoin... et non pas la rentabilisation du capital. Je n'ai rien contre la rentabilisation du capital, ce fut mon métier pendant 25 ans. Simplement, ça conduit à des comportements qui sont les comportements de la rentabilité du capital et du fait qu'il y a des moments où il faut faire des sacrifices, et bon, on voit les délocalisations, etc. Donc les entreprises solidaires, elles prennent l'inverse. C'est-à-dire qu'elles disent, nous on essaie de répondre à des besoins sociaux, et ce n'est pas la rentabilité du capital... fût-elle modérée, qui est notre guide, notre indicateur. Notre société, l'indicateur, c'est la dernière ligne du compte de résultat d'une entreprise. Même si l'entreprise demeure raisonnable, c'est ça. Elles prennent une autre réalité. Voilà, on cherche à répondre à des besoins sociaux. Et c'est normal aujourd'hui, dans le climat de crise dans lequel on est, qu'on essaie de développer partout où c'est possible, mais ça ne l'est pas partout. Cette idée qu'on met des gens... au travail pour essayer de répondre à des vrais besoins de la société et non pas simplement à cette rentabilité du capital. Voilà, c'est un peu rapide, mais c'est la seule définition que je peux donner en quelques secondes.
Merci. Peut-être sur la deuxième question, où il y avait beaucoup de choses, donc il y aura peut-être des éléments de réponse très différents, notamment concernant peut-être l'absence d'écoute ou d'aide pour les chrétiens qui sont à la base. Vous avez souligné ça, madame. Peut-être pour les aider justement dans leur travail et leur conscience citoyenne. Je ne sais pas si Monique...
Oui, si j'ai bien compris, en fait, vous pensez que les évêques n'ont pas suffisamment pris en compte cela. Les évêques se font généralement reprocher tout quand ils parlent et également tout quand ils parlent pas. Je suis maintenant depuis plus de 10 ans à l'intérieur de la conférence des évêques, donc on commence à connaître les coulisses. Et toujours quand on connaît les coulisses, on ne regarde plus le spectacle de la même façon. Je vois toute l'énergie qui est dépensée, tout ce qui est publié, tout ce qui est fait, toutes les interventions qui sont faites à droite à gauche, et je vois le maigre retentissement qu'il peut y avoir pour cela dans la presse. Heureusement qu'il y a le pèlerin ou la croix, hein, mais dans une société où il y a un flot d'informations, repérez ce que dit l'Église. Si vous ne faites pas l'effort vous-même, vous n'allez jamais le trouver. Je pense que le soutien de l'Église aux pauvres n'est pas discutable, même si c'est le Secours catholique qui est le bras armé de l'Église.
Il n'y a pas que nous.
Non, entre autres. Mais d'entendre la parole, c'est vrai, c'est toujours une difficulté, mais néanmoins, si vous faites un effort, vous le trouvez, et vraiment, on ne peut pas dire que les évêques ne se prononcent pas régulièrement sur tout un tas de questions.
Voilà, il parlait sans doute déjà avant. Voilà. Merci. Étienne Pinte.
Oui, je crois que ce soit l'Église, nos évêques, les papes, etc., ne peuvent pas tout faire. Ils ont des messages. C'est ça qui est important. Il faut que ces messages soient diffusés. Ils ne sont pas suffisamment. Écoutés. Ils ne sont pas suffisamment. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais quand même stupéfait à la suite du discours de Grenoble, que dans les semaines qui ont suivi, ce soit Mme Le Pen qui tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne les prières dans la rue. Quand je pense que depuis des années et des années, ni, entre guillemets, l'État laïque, ni l'Église ou les Églises ne se sont émus que des croyants pris dans la rue à Marseille et à Paris, c'est quand même stupéfiant que on ne se soit pas saisi, mobilisé, sensibilisé, aperçu que des croyants dans ce pays étaient obligés, faute de lieux de culte suffisants, de prier dans la rue. Pour moi, si vous voulez, ça a été, je me suis dit, dans le livre que nous avons fait avec le Père Turc, d'ailleurs le Père Turc n'était pas tout à fait à l'aise dans cette affaire-là, quand j'ai dit, mais nous avons une responsabilité, les chrétiens, les catholiques, l'Église a une responsabilité de ne pas avoir, ne s'être pas aperçu que des croyants, même si ce n'était pas notre propre religion, que des croyants étaient obligés de prier dans la rue. C'est quand même énorme. Alors aujourd'hui, maintenant, tout le monde s'en préoccupe, c'est bien. Mais c'est là où l'on voit que, effectivement, il y a des moments dans la vie où, malheureusement, que ce soit ceux qui sont là pour défendre la laïcité, je rappelle, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de culte, c'est la liberté de conscience, eh bien là, on avait fait l'impasse pendant des années et des années, ce n'est quand même pas normal, et que ce soit aussi bien les autorités publiques que les autorités religieuses. On avait un grand mea culpa à se faire les uns les autres.
Avant de donner la parole à Sylvie sur l'Europe lointaine, l'Europe méprisante, peut-être François Soulages, ce que peut-être certaines fois vous auriez tendance à noircir le tableau de la réalité française.
Moi je ne noircis pas le tableau, je constate. Je constate que dans notre pays, la pauvreté ne s'est pas accrue, ne racontons pas d'histoire. Hein, en 15 ans, le taux de pauvreté, qui est, à travers le seuil de pauvreté, a baissé. Mais la grande pauvreté, c'est-à-dire les écarts entre ceux qui sont les plus pauvres et la moyenne, s'est accru. C'est-à-dire que là où des gens pouvaient survivre, ils ne peuvent plus survivre. C'est ça le problème qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, le seuil de pauvreté, eh bien, vous ne vivez pas avec ça. Le seuil de pauvreté, c'est aujourd'hui, écoutez bien, à Paris, le seuil de pauvreté pour une famille de deux adultes et deux enfants, le seuil de pauvreté, c'est 2100 euros. C'est ça le seuil de pauvreté. C'est-à-dire que quand vous êtes au SMIC, que le second ne travaille pas et que vous avez des allocations familiales, vous travaillez à plein temps, vous n'avez pas le seuil de pauvreté. C'est ça qui est le problème. C'est qu'aujourd'hui, la grande pauvreté s'est accrue. C'est ça, moi, que je regarde. Et alors, puisque madame m'interrogeait sur le concept de liberté, oui, Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel tout le monde est libre. Parce que c'est la liberté de choix. Combien de jeunes, je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'école, mais Étienne l'a redit, combien de jeunes sortent du système scolaire sans diplôme? Est-ce qu'ils ont une liberté de choix pour leur travail? Lorsqu'il y a 900 000 logements qui manquent, est-ce qu'on a la liberté d'habiter où on veut? Est-ce que aujourd'hui, y compris par rapport à la société de consommation, nous avons sérieusement la liberté de l'ensemble de nos choix de consommation? Est-ce que nos jeunes qui vont à l'école et qui demandent le dernier vêtement à la mode, est-ce qu'ils ne sont pas dans un système de contraintes? C'est ça qui me préoccupe. Et c'est pour ça que je vous disais résister. Parce qu'on est dans une société dans laquelle la liberté formelle existe, la liberté au quotidien est largement bafouée. Je ne fais que reprendre ce que j'ai dit aux états généraux du christianisme. On m'a demandé de le réécrire dans un numéro spécial de La Vie. Excusez-moi, c'est l'autre concurrent. Mais je le pense profondément. Il faut qu'on travaille sur cette liberté réelle de chacun, pas la liberté formelle.
Merci. Alors on va terminer avec Sylvie. Cette perception que beaucoup peuvent avoir d'une Europe lointaine et méprisante.
Non, si j'ai bien compris la question, enfin qui était sur une page entière, mais c'était lié à ce qui s'est passé en 2005, au fait que les Français ont rejeté le traité constitutionnel et qu'en quelque sorte, on les aurait obligés à accepter à nouveau quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Alors, moi, je peux tout à fait comprendre le sentiment qui habite des personnes qui ont voulu rejeter quelque chose. Simplement, je les invite à réfléchir un tout petit peu et à ne pas réfléchir dans le cadre français seulement. À l'époque, il y avait eu 18 pays de l'Union européenne qui avaient marqué leur accord pour le traité constitutionnel, soit par la voie parlementaire, soit pour deux d'entre eux, par la voie de référendum. Le peuple espagnol et le peuple luxembourgeois s'étaient prononcés pour. Les Français se sont prononcés contre. Est-ce que l'accumulation des noms de sources extrêmement diverses qui allaient de l'extrême gauche à l'extrême droite et qui ne construisent pas une alternative, est-ce que cette accumulation de noms devait signifier pour toujours l'arrêt de tout progrès de la construction communautaire, y compris au mépris de ceux qui avaient voté oui? Je crois que non. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas d'accord et qu'il y a un échec? Eh bien, on recommence. C'est ce que je dis à mes enfants. Quand il y a un échec, on s'y remet. Voilà. Donc, on est sur un petit continent. On doit tous vivre ensemble. Le statu quo, et d'ailleurs ceux qui ont voté non ont très souvent critiqué le statu quo lui-même et ne faisaient que le conforter en votant non. Mais disons que le statu quo n'est pas satisfaisant. Donc on s'est remis autour d'une table, et c'est pas parce que je siège au Parlement européen maintenant, je n'étais pas à l'époque, je suis plutôt allée au Parlement européen parce que je crois nécessaire de défendre la démocratie représentative. Lorsque vous posez des questions sur des sujets extrêmement complexes, et que vous posez, en plus, ça a été l'erreur de méthode, la question aux différents peuples européens selon des modalités différentes et à des dates différentes. Où est la réponse européenne? Où est la véritable démocratie européenne? C'est la prise en otage de tout le monde par quelques-uns, qui en plus ne sont encore une fois qu'une expression, je dirais, hétéroclite de visions très différentes. Donc, je peux comprendre tout à fait que les Européens souhaitent participer à la vie démocratique. C'est le fil rouge de mon combat au Parlement européen. Je me suis battue, y compris dans la réforme du pacte de stabilité, de toute la gouvernance économique, dont on pourrait reparler une autre fois, pour introduire un peu plus de démocratie. C'est le fil rouge de la plupart des articles que j'écris, de la plupart des bouquins que j'ai écrits. Je me suis interrogée sur l'opportunité de certains élargissements parce que je trouve que la manière dont les décisions étaient prises par le Conseil européen n'était pas satisfaisante. Donc je partage cette volonté de mettre plus de démocratie dans l'Union européenne. Mais je pense qu'il est déraisonnable de faire croire aux citoyens que dans un ensemble de 500 millions de personnes, fermez les yeux un instant, 500 millions de personnes, la zone euro compte déjà plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Avec la diversité linguistique, culturelle, politique qui est la nôtre, dire aux gens qu'il va y avoir des référendums et que ça sera, pour cette raison-là, démocratique, je crois que c'est tout simplement une escroquerie. Donc je ne dis pas que j'ai la bonne solution, mais je pense qu'il faut que les parlements nationaux jouent leur rôle. Il faut que le Parlement européen, à mon avis, joue un rôle beaucoup plus décisif, pas parce que j'y suis, parce qu'encore une fois, demain matin, je peux ne pas y être, mais parce qu'en face du pouvoir qui prend des décisions au niveau européen, il faut qu'il y ait une responsabilité au niveau européen, que nous sommes le seul endroit où des Allemands, des Grecs, des Français, des Portugais se parlent en même temps et que les parlements nationaux, auxquels je rends toujours hommage pour ce qu'ils font dans les pays, ne sont pas en mesure de mettre en présence les différentes forces politiques des différents pays membres en même temps, dans un dialogue en plus avec des interprètes, etc., qui nous permet de nous parler directement. Donc je ne dis pas qu'on peut jouer un rôle qui va tout changer, mais je pense que dans la gestion de la crise, l'une des raisons de la désespérance, c'est qu'on a dit à des personnes « c'est comme ça et c'est pas autrement », alors qu'en fait, il y a des marges de choix. Si on veut faire des coupes dans les budgets, on peut les faire dans l'éducation, dans la défense, dans l'environnement. Il faudra peut-être en faire. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Si le peuple d'Europe décidait ensemble que sa priorité, c'est plutôt ceci ou plutôt cela, ou si on lui impose, comme on le fait depuis un certain nombre d'années, des choix qui sont, lui dit-on, contraints et sans alternative. Avec cette Europe-là, on va dans le mur. Mais c'est pour ça que je me bats pour qu'il y en ait une autre. Et je crois très sincèrement qu'elle est à portée de main. Je crois que nous avons beaucoup plus en commun les uns avec les autres que certains politiques qui ont envie de garder leur petit fief national le disent dans les campagnes, par exemple pour la présidentielle. Merci.
Voilà. Il est 10h25, on va respecter les horaires. Je voudrais, en votre nom, remercier très chaleureusement les intervenants de ce soir. Nous voyons que ce sont des hommes et des femmes de conviction. Alors, on va essayer de s'aider les uns les autres, eh bien, à avoir une conscience éveillée en politique et à participer aussi au débat politique comme chrétien. Je voudrais, si on peut garder le silence encore quelques instants, merci, peut-être rappeler les ouvrages de nos invités. Immigration, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire, François Soulages, Geneviève Medvielle aux éditions d'Atelier. Chez le même éditeur, Extrême droite, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire, Étienne Pinte, Jacques Turc. La conférence des évêques de France, le conseil Famille et Société, Grandir dans la crise, aux éditions Bayard, Le Cerf, Fleurus Mam, et l'ouvrage du cardinal André 23, Quelle société voulons-nous ? Je voudrais dire aussi au passage qu'il y aura pour les plus jeunes d'entre nous, c'est-à-dire pour les étudiants et jeunes professionnels, on m'a dit que c'était jusqu'à 35 ans, une journée sur laquelle il sera possible de continuer la réflexion, organisée par l'association politique Une Bonne Nouvelle, le samedi 10 mars prochain, le matin au Centre Sèvres, l'après-midi au Palais du Luxembourg. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la politique Une Bonne Nouvelle. Je laisse la parole à Antoine Dabundo. Et je voudrais seulement vous dire que la prochaine soirée d'éthique aura lieu le mardi 6 mars prochain, que nous nous intéresserons à d'autres élections présidentielles, celle de Russie, où va la Russie, à 19h15, le mardi 6 mars prochain. Je laisse la parole à Antoine Dabundo.
Je voulais juste remercier encore une fois le Centre Sèvres de nous avoir reçus. J'ai bien retenu de l'exposé de Monique Beaujard que l'Église voulait des consciences libres, éclairées et responsables. Et j'ai aussi retenu de l'entretien que j'avais eu avec François Brédec qu'il était important, en toute occasion, mais en particulier pour la préparation de ce scrutin présidentiel, que les chrétiens dialoguent et réfléchissent entre eux. C'est ce que nous avons essayé de faire ce soir, grâce à nos quatre invités. Je voulais juste souligner l'importance que revêt pour moi, et j'espère pour vous, la presse chrétienne dans l'entretien de ce dialogue fécond entre nous. À la sortie, vous trouverez, pour ceux qui ne le connaissent pas, le numéro déjà ancien, enfin qui n'est plus en vente aujourd'hui, de Pèlerin que nous avons préparé avec le Centre Sèvres, mais également la proposition pour ceux qui ne connaissent pas Pèlerin de le découvrir ou de le faire découvrir à des amis pour 4 semaines de manière gratuite. Voilà, c'est un journal que j'aime et que j'espère, en le découvrant, vous aimerez à votre tour. Merci en tout cas à tous pour cette soirée.